Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue! Comment ça va les copains? Incroyable, j'ai vu que Clément il venait de finir son stream, c'est ça? Eh bien soyez les bienvenus à l'after party. Didadoum. Ça c'est bon. Bienvenue, bienvenue. Tout roule? Par chez vous? Synchro génial avec Klemovic, bah oui, évidemment, comme d'habitude. C'est Clément qui était le before. Oui, c'est ça. Clément a chauffé l'ambiance en attendant le vrai set. Absolument. Tout à fait. Partie 2 du dooming du lundi, oui. Tout roule sauf la rocade, blocage des agriculteurs. Est-ce qu'il y a des blocages d'agriculteurs à côté de chez vous? Est-ce que ça a déjà commencé? Moi, à Paris, ça va pour l'instant. En général, ils arrivent à la fin à Paris. Et puis, ils sont très, très énervés. Non. Non, je vis en centre-ville. Ouais, t'es comme moi, quoi. Paris, belle ville, rien vu. Chez mes parents, dans le 78. Chez moi, ils sont partis à Paris, ok. Est-ce qu'il y a des rocades dans le chat? Épargné en Suisse. Bon, on verra. A priori, on est sur un début de mouvement des agriculteurs qui va s'empirer probablement dans les jours et les semaines qui viennent sur fond de négociation du traité Mercosur avec l'Union européenne. Michel Rocade, exactement. Ah non, fallait que je vous dise un truc. Attendez, fallait que je vous dise un truc. Dans la catégorie, je me déteste. En fait, comment vous dire? Le son dans mon casque, là, qui vient de là, le son dans mon casque, il vient pas directement de ma carte son. En fait, il passe par un petit boîtier comme celui-là. Un petit boîtier qui sert d'ampli à casque, hein, c'est branché sur le secteur, vous mettez un input et vous avez jusqu'à 4 sorties de casque différents. Vous allez me dire à quoi ça te sert d'avoir 4 sorties de casque alors que t'as aucun pote, espèce de connard. Je vais vous répondre que je vous emmerde et que je m'en sers quand même parce que c'est pratique, c'est juste à côté de ma main gauche, là comme ça je peux régler le son de mon casque beaucoup plus facilement que là-bas c'est loin. Bon et puis foutez-moi la paix au bout d'un moment, c'est bon, hein. Donc j'avais ce petit truc-là, ça faisait un an et demi, je crois que je l'utilisais. Un an et demi que j'utilisais ce truc-là. Et comme vous le voyez sur ce truc-là, les entrées et les sorties sont des gros jacks. Les jacks, ce sont les prises de casque que vous connaissez tous. Vous utilisez la plupart du temps des petits jacks. C'est ce qu'on écoute pour les écouteurs, notamment dans les anciens iPod, etc. Mais il existe aussi des gros jacks qu'on utilise pour les instruments de musique, notamment pour les instruments professionnels, divers et variés, etc. Bon, en l'occurrence, celui-là, c'est un gros jack, mais c'est pas grave parce qu'il existe des adaptateurs. Un adaptateur, c'est aussi con que ça, hein, voilà. Vous faites rentrer un petit jack là, et ça vous sort un gros jack. Voilà. Et donc, j'ai des adaptateurs, et ça m'a servi à utiliser ce truc-là pendant un an et demi. Sauf que ce truc-là, il a commencé à merder. Là, il y a quelques semaines. J'ai commencé à avoir des sautes de son, j'ai commencé à avoir du son qui s'affaiblit, et ça remarchait quand je le rebranchais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème à l'intérieur du truc. En même temps, le bordel, ce petit boîtier-là, c'est un boîtier qu'on avait acheté à l'époque d'Acropolis. Genre le truc, il doit avoir 5 ans d'existence, quoi. 5 ans d'existence à servir tous les jours. Il a le droit de commencer à être fatigué, je l'autorise, il n'y a pas de problème. En plus, ça coûte que dalle. En plus, ça coûte que dalle, donc j'en ai racheté un autre. Que j'ai branché ce matin, qui est juste là. J'en ai racheté un autre pour mon casque, etc. Et la différence entre le nouveau et l'ancien, c'est que le nouveau, il est avec des petits jacks. Il n'y a pas besoin des gros. On peut mettre directement le petit jack. Donc, j'ai viré mes adaptateurs qui ne me servent plus à rien. Et donc, j'ai branché mon casque ce matin. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'ai découvert que j'avais le son en stéréo désormais. Parce qu'en fait, attendez, attendez. Parce qu'en fait, ces petits adaptateurs de merde là, ça permet de transformer le petit jack en gros jack, certes. Mais surtout, ça écrase le son stéréo gauche-droite pour faire un son qui est gauche-droite dans les deux oreilles. Donc pas en stéréo. T'as le même signal dans les deux oreilles en permanence. Et donc j'étais en train de jouer à Battlefield ce matin. Et là, d'un seul coup, j'ai eu la spatialisation du son dans le jeu pour la première fois depuis un an et demi. Genre, je m'en étais jamais rendu compte. Je m'en étais jamais rendu compte. J'étais là, j'étais en train de jouer, puis d'un seul coup, j'ai fait waouh! Eh, mais c'est trop bien! Mais attends, c'est super pratique! Voilà. Donc, mais c'est vraiment, ça m'a fait le même effet que si tu découvres la couleur d'un seul coup sur ta télévision, tu sais. Imagine les mecs dans les années 70, là, d'un seul coup, il y a eu la couleur, ils ont fait oh! Wow! Ah la vache! Ah, c'est impressionnant! Ah ouais! On voit les couleurs et tout! Wow! Bon, après, tu t'habitues. Mais sur le moment, quand même, c'est assez impressionnant. Bah, moi, il m'est arrivé pareil. Vraiment, je me suis ouvert le crâne, là, d'un seul coup, j'ai fait wow! La stéréo! Oh, oh cette technologie du futur! Je sais pas comment j'ai fait, vraiment, hein, pour ne pas me rendre compte, en un an et demi, que j'avais pas de spatialisation du son dans mes jeux vidéo, et que tout ce que j'écoutais était écrasé en mono dans les deux oreilles, quoi. C'est vraiment, c'est une énigme, comment j'ai fait pour pas me rendre compte. Et je me souviens du même genre de conneries... Pour jouer à des FPS, c'est horrible en plus. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi, Quev. Non, c'est atroce. Bon, du coup, ce que ça nous apprend quand même, c'est que je suis un excellent joueur de jeux vidéo. J'ai pas besoin de la spatialisation du son dans un jeu pour... voilà, c'est bon. Hein. Pas besoin pour gagner à la Zilane. Exactement, pas besoin. Les adaptateurs sont stéréo, t'es sûr que c'est pas l'ampli? C'est vrai que moi ça me disait bien du stéréo ça. J'avais l'impression que c'est stéréo à partir du moment où t'as les deux bandes noires là. C'est-à-dire que t'as le son droite et le son gauche. Ou alors le son gauche et le son droite, je sais plus, la pointe et machin. Pour moi c'était stéréo ces trucs là. À la différence des vieux jacks de guitare là, machin en mono. Est-ce que c'est lui alors? Ultra compact, 4 channel, stéréo, headphone, amplifieur. Ben non, il y a écrit stéréo. J'en sais rien, je comprends rien, je suis une merde. Je suis un professionnel, hein, je suis streamer depuis 10 ans, attention. Hein. Je sais ce que je fais. Hein. Niveau matos et tout. Mal enfoncé depuis un an et demi. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir la stéréo. Maintenant, c'est une très belle technologie. Et ça m'a rappelé quand j'étais au lycée, j'avais ma PS3 qui était branchée en Péritel sur la télé. Pareil, genre pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'un pote vienne à la maison pour jouer avec moi. Puis regarde, il fait, mais elle est dégueulasse ta télé. Je dis, ah bah non, la télé, c'est un super modèle et tout, il n'y a pas de problème. Il dit, bah attends, je vais regarder. Et là, il voit la Péritel, il fait, t'es sérieux, Jean? T'as branché une PS3 en Péritel? T'es fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, on a mis un HDMI et j'ai fait waouh, ah ouais, quand même! Ah, c'est impressionnant les hautes définitions, le 21e siècle et tout. C'est quoi la Péritel? Oh, la Péritel, les enfants! On vit dedans! Hop, hop! Le câble Péritel, mesdames et messieurs, me disait pas que vous avez jamais vu ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est de la basse définition. C'est le truc. On branchait en Péritel les Nintendo 64, les PlayStation 1 et 2. C'était de la Péritel, quoi. Et donc voilà, donc j'ai joué en Péritel, mais je trouve que j'en ai parlé avec Thomas ce matin qui m'a dit c'est vrai que la Péritel ça donne un petit effet flou à l'image qui est assez qu'on aime bien. Et je suis d'accord avec lui. Pour me défendre, je trouve que ça donne une image un peu, il y a une patine qui est assez agréable, un petit grain, ouais c'est ça. C'est vintage, ah bah ouais, c'est vintage, hein. C'est à l'ancienne. Donc voilà, donc j'ai joué sur ma PS3 à l'époque, avec un câble Péritel pendant plusieurs mois avant de m'en rendre compte. Et encore, heureusement que quelqu'un me l'a dit, parce que sinon, moi, j'aurais continué, hein. Je jouais à GTA 4. J'adorais GTA 4. C'est un GTA mal aimé par la commu. Mais moi, je l'aimais bien. Il était bien. Il était dark. La couleur était sombre, c'était triste et tout. Non, j'aimais bien, j'aimais bien. Et jouer à Red Dead Redemption 1, le meilleur. C'est la base GTA 4. Non, c'était génial GTA 4, mais bon, faut reconnaître que les contrôles des véhicules et des personnages étaient insupportables. Enfin, j'ai vraiment t'as l'impression d'avoir un bus, quoi. Quelle que soit la bagnole que tu prends, c'était un bus. Je reconnais. C'était vraiment pas ouf. Tu devais pas faire une revue d'actu? Non. Non, non, je devais pas faire de revue d'actu, non. Ici, c'est un stream jeu vidéo. Ça l'a toujours été, je vois pas pourquoi ça changerait. Lui quoi, qu'on parle de politique? Ça arrive, calmez-vous. Je vais pour la première fois au conseil municipal de ma commune ce soir. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir poser des questions? Je suis absolument certain que tu ne vas pas du tout pouvoir poser de questions. Le conseil municipal est public, hein, c'est ouvert. Le conseil municipal, vous pouvez y aller. Il y a des places pour le public, etc. C'est voilà. Le public est là pour être un public. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de voilà. Vous allez pouvoir écouter et c'est tout. Pas intervenir, pas lever la main, pas applaudir. Voilà. N'hésitez pas à y aller, hein, c'est intéressant, les conseils municipaux. Il y a un monde où vous êtes un peu largué. Hein. Tu joues à Battlefield, Jean, j'ai envie de m'y remettre. Ouais, moi, c'est mon jeu Brainfuck un peu classique, c'est Battlefield 2042. J'aime bien. Tu peux faire une banderole de soutien éventuellement. Ah non, ça, tu peux pas. Non, non, il y a la police municipale qui va t'empêcher. Est-ce que c'est diffusé sur Twitch, le conseil municipal? Alors non, mais beaucoup de conseils municipaux sont diffusés sur le site internet de la commune. Hein. Beaucoup de communes se sont dotées d'un équipement vidéo avec un contrat de service avec des entreprises spécialisées qui font de la captation et diffusion live de leur conseil municipal. Pour un total de un viewer en moyenne, mais ça existe. Ça a le mérite d'exister. 360 ou 480p, je sais plus. 360 en général. Mais je me souviens de. Je me souviens, il y avait un conseil municipal, je sais pas où. Non, c'était pas je sais pas où, c'est là où je travaillais, à la mairie. Ils avaient acheté comme ça les services d'une entreprise qui venait. Et en gros, le conseil municipal, c'était des tables qui étaient mises en rond, comme ça. Et tout le monde était assis autour. Il y avait beaucoup de monde, hein, quand même. C'est grand, le conseil municipal. Et ils avaient foutu une caméra au milieu de la salle. Ce qu'on appelle une caméra PTZ. Vous avez peut-être déjà entendu ça, une caméra PTZ, aussi appelée caméra dôme. Ça veut dire pan, tilt, zoom. Ce sont des caméras qui sont commandables à distance et qui peuvent tourner à 360 degrés, zoomer et tilter. Voilà. C'est ça les caméras PTZ. Et donc, ils mettaient une seule caméra PTZ pour une quarantaine de personnes à filmer. Mais le principe, c'est que la caméra, elle tournait automatiquement et elle filmait la personne qui avait le micro allumé. Vous savez, il y a un petit système de micro, ce qu'on appelle les micros colle de cygne, où tu appuies sur un bouton pour demander la parole ou alors pour directement allumer le micro et ça allume et il s'allume en rouge, etc. Sauf que du coup, la caméra, elle filmait la personne qui était en train de parler, mais il suffisait qu'il y ait une autre personne ailleurs qui appuie aussi sur le micro pendant que le mec parle pour que la caméra, elle tourne d'un seul coup pour le regarder lui. Et du coup, à chaque fois que la mère parlait, il y avait un mec de l'opposition qui appuyait sur le bouton pour que la caméra arrête de la filmer. Voilà, ça n'arrêtait pas. C'était vraiment de la merde. Enfin, vraiment, le service n'était pas au point du tout. Ça filmait avec du retard et tout. Enfin, ça marchait pas. Les mecs, ils avaient dû marketer ça pour le vendre à tous les conseils municipaux. Ils ont dû gagner des marchés publics partout. Leur foutre leur système pseudo-intelligent, là. Le nombre de communes qui ont claqué de l'argent pour s'équiper avec ces merdes. Champ contre champ contre champ, oui, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai le mal des transports avec d'y penser. Ouais, bah voilà, ça existe. Je me souviens aussi. Alors ça, on avait eu un partenariat à l'époque d'Acropolis. On avait eu un partenariat pour faire une diffusion commentée d'une séance du Conseil régional de Centre-Val de Loire. Le Centre-Val de Loire est une très belle région qui a juste une particularité, c'est qu'à l'époque, pour une raison que j'ignore, ils filmaient en 4 tiers. Vous savez, le format 4 tiers, le format de l'époque, d'avant, de comment dire, du siècle dernier, littéralement. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, les formats que vous regardez là actuellement, c'est du 16 neuvième, 16 par 9, 16 neuvième. Quand vous regardez des TikTok, etc., c'est du format 9 16e. Ou alors 9 18, je sais jamais. Bon, peu importe. Le format Péritel, oui. Voilà. Non, le Péritel pouvait faire du 16 neuvième. Mais voilà, le conseil régional, il filmait en 4 tiers à l'époque. Et du coup, je vais essayer de retrouver. Carte d'identité, fonctionnement, maison de la région, achat de marché public, budget de transport, annonce légale, organigramme, portail des aides, touriste numérique. Il n'y a pas un truc citoyenneté là pour voir les derniers conseils municipaux? Démocratie permanente. Ça, c'est ce qui avait été lancé par Charles Fournier, je me souviens. Pour le coup, le conseil régional du Centre-Val de Loire, il est assez pionnier dans la participation citoyenne. C'est cool ce qu'ils font. Agenda, magazine, contact, guide des aides, explorer. Vivre, je veux vivre. Patrimoine, transport, offre d'emploi, formation, culture, santé, sport. T'as pas citoyenneté, genre citoyenneté? Si je tape conseil régional. Non, il y a. Voilà, le conseil régional de la jeunesse. J'adore, j'adore, je vote. Vive le conseil régional de la jeunesse, ça c'est très cool. Conseil régional du numérique, je m'en fous. Le conseil. C'est un article. Le conseil régional du numérique. C'est pas ça que je veux voir. Moi je veux voir les réunions du conseil régional, le vrai, l'officiel. T'as pas organigramme, nos aides, appel à projet, espace presse, maison de la région, ma région en action, magazine, kit de communication, achat de marché public, accessibilité du site, paiement en ligne, plan du site, mention légale, politique de confidentialité, politique de cookies, manger des cookies. Y a pas les replays, bah écoutez, y a pas les replays, hein. Quelle tristesse. Pourquoi vous les foutez pas les replays? Bon bah on trouvera pas ce soir, hein. Recherche région Centre-Val de Loire TV sur YouTube. Ok, bah écoute, on va regarder. Non, ça a l'air d'être une web TV du conseil régional. Ouais, ça a l'air d'être une web TV qui met en avant les trucs, les machins et tout. C'est très bien, mais moi je veux le conseil régional de Centre-Val de Loire. Les séances plénières, les débats et tout. Il y a le Rassemblement national de la région Centre-Val de Loire. Oh, oui, bon, bref, c'est bon. groupe CDRC. Centre démocrate, républicain et citoyen. Centre démocrate, républicain et citoyen, bah, ça doit être les macronistes, ça.
Cité scolaire, on est sur une centaine de lycées avec tous ces équipements.
Eh ben dis donc, c'est du 16-9e ça. On dit bravo le Conseil régional Centre-Val de Loire. Maintenant, on a du 16-9e. C'est très bien. J'ai toujours pas trouvé où est-ce qu'on pouvait trouver ces vidéos, mais bravo. C'est dommage de ne pas le rendre plus accessible maintenant qu'il y a du 16-9e. Ben voilà, c'est la modernité, c'est beau, hein. « 65 vues, j'espère qu'ils utilisent ça ailleurs que sur YouTube. » Coève, sois pas méprisant avec la démocratie locale dans ce pays. Ça fait pas beaucoup de vues, mais c'est important. Ils ont trouvé la prise HDMI. Comprendre assemblée régionale, assemblée plénière en vidéo. Ah! Ah! J'arrête de faire l'enfant. J'arrête de faire l'enfant. Comprendre assemblée régionale vidéo. Comprendre assemblée régionale. Il n'y a pas vidéo. Si, c'est là. Promis, je l'avais vu, je l'avais vu. C'était pour voir si vous suiviez. Les vidéos. Ah, moi, je veux voir les vidéos. Je veux voir l'intervention de François Bonneau. Ça marche pas. Ça marche. Oula. C'est aussi moche que le site de l'Assemblée nationale, mais ça a l'air de fonctionner. La plénière du 7 novembre. Ouais, c'était il y a 10 jours.
D'accord.
Alors, première erreur. Première erreur. Continuer à discuter alors que ton micro est allumé. Il y a des drames. Hein. Il y a des drames qui peuvent se jouer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui raconte le mec à côté? Je ne sais pas si c'est un vice-président, un collaborateur, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être un fonctionnaire, je ne sais pas.
D'accord.
J'ai entendu, ça va grogner dans les clubs d'athlés de la région. On leur expliquera qu'il n'y a pas de choix. Il a parlé d'un communiqué pour calmer les choses. C'est de la politique locale, hein, ça ne m'étonne pas. Président de région qui s'inquiète des clubs d'athlètes qui vont gueuler parce qu'il y a des baisses de subventions, je sais pas quoi. Ah, là, il a compris qu'il fallait s'éloigner du micro. Vous avez vu la feuille? La technique de la feuille! Grand classique! Il y a des caméras, il y a des gens qui nous regardent, faut pas qu'ils puissent lire sur les lèvres, mais on va laisser le micro allumé. Il tape là où l'on est. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. En même temps, c'est la Réal qui a déconné, hein. C'est pas le président, c'est la Réal.
Mesdames et messieurs, en vous saluant, nous allons donc ouvrir nos travaux. D'abord, merci de rejoindre vos places. D'abord par l'appel nominatif.
Ah, c'est le meilleur moment d'un conseil régional, l'appel nominatif des élus. Qui est présent, qui est absent, qui a ce qu'on appelle des pouvoirs, donc des délégations de vote.
Betsabéas.
Membre de la Conférence Régnier. Extrêmement important de nos concitoyens qui sont inquiets. Ils sont
Ça,
inquiets
c'est le
parce
discours d'ouverture du président.
que des intérêts un peu plus d'un an, une mesure importante
Et
que
c'est le premier vice-président.
saluer, je crois, dans cet hémicycle. Ça représente quand même, je regarde Philippe Fournier, autour de 7 millions d'euros par an à ce jour.
On va arrêter de s'infliger ça. Je voulais juste féliciter le conseil régional du Centre-Val de Loire d'avoir un service vidéo opérationnel en format 16/9e avec un dérouleur, ce qui est bien pour suivre. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Extraordinaire. Euh, 2695 vues. T'as vu ça où? Ah ouais, c'est écrit en dessous. 2695 vues. C'est bien. Bravo. Allez, vous pouvez le dire maintenant, vous écoutez ça le soir pour vous endormir. Vous écoutez les séances plénières des conseils régionaux. Vous changez de conseil régional chaque nuit pour varier les plaisirs. J'écoute ça le matin pour me motiver à tout défoncer. Il gonfle les chiffres, c'est des bottes. Non! dont je pense que personne n'a la compétence technique pour faire du botting dans les conseils régionaux. Non, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires des conseils régionaux. Je pense qu'il y en a pas un qui sait faire du botting. C'est pas grave, ça sert à rien de toute façon. Vraiment, c'est pas très important. Les moyens de réalisation de ces vidéos ont été pris sur le budget de subvention aux fédérations d'athlétisme. Oui, bon, elles vont gueuler un peu, mais on va faire un communiqué pour calmer le jeu. Ah, ça va, c'est bon, on peut rigoler. Tu penses qu'ils gagnent combien pour 1000 clics? C'est vrai, ça. Moi, je crois que dans le calcul des dotations de l'État aux collectivités locales, il y a une grille indiciaire en fonction du nombre de vues sur les vidéos des conseils municipaux, départementaux et régionaux. Plus tu as de viewers, plus tu touches d'argent pour faire des services publics. C'est prévu, c'est dans la Constitution, hein, c'est écrit. Il y a des assistants parlementaires pour gérer la diffusion. Non, les assistants parlementaires, ils sont au Parlement européen. Ça boit quoi, ça, un café? C'est un café, il n'y a rien de plus triste. La fameuse loi Massier. T'imagines? La loi qui porte ton nom, c'est une loi qui prévoit des bonus de dotation financière aux collectivités en fonction du nombre de viewers sur les instances dirigeantes, sur les lives des instances dirigeantes. J'adore. J'adore. Ils ont le droit au 70-30. Ça dépend. Il faut que les régions soient partenaires. Si t'es pas partenaire, tu peux pas. Faut être partenaire avec l'État. Le tout sous la supervision du préfet. Non, c'est bonne ambiance. Hein. En vrai, c'est bonne ambiance. Est-ce que c'est l'ingérence de Jeff? Sans doute. Sans doute, sans doute, sans doute. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on a comme sujet d'actualité? Qu'est-ce qu'on a comme sujet d'actualité en cette actualité? Les amis, c'est lundi. C'est la revue d'actu. On essaie de se remettre dans le bain de l'actualité après le week-end. Week-end que vous avez passé à dormir et à faire la sieste, bien entendu. On a Biden et l'Ukraine, ouais. Joe Biden qui, dans un dernier acte bravache, avant de transmettre le pouvoir à Donald Trump, qui a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée américains pour frapper en profondeur le territoire russe. Il y a les nominations de Trump, ouais, les nominations de Trump. Donald Trump qui a annoncé des premières nominations à des différents postes de l'administration, l'équivalent de ce qu'on appelle en France un ministre, qui stricto sensu aux États-Unis n'existe pas, mais qui ont des postes relativement similaires. En gros, ils dirigent l'action du gouvernement fédéral dans des administrations particulières. Et on a appris effectivement que Donald Trump allait nommer un anti-vax au ministère de la Santé, un présentateur de télé à la Défense, Elon Musk dans un nouveau ministère chargé de l'efficacité publique. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? Je ne me souviens plus des noms des autres. Un pro-russe au renseignement ? Ah ouais ? Ça, j'avais pas vu ça. Oui, un Matt Gaetz accusé de détournement de mineurs, si je me trompe pas, qui va être nommé à la justice. Procureur général, comme on dit aux États-Unis. Matt Gaetz, qui est un élu radical du Parti républicain, très proche de Donald Trump dans ses idées, et qui a quelques poursuites judiciaires au cul, notamment pour des affaires de détournement de mineurs, hein, je crois, et qui va être nommé à la justice, ouais. Musk à l'efficacité publique, c'est pas lui qui a viré quasiment l'ensemble des modérateurs de Twitter. Si, absolument. Mais dans le logiciel d'Elon Musk, c'est une très bonne chose. Elon Musk a pris la direction de Twitter. Il a annoncé beaucoup de licenciements, notamment dans les équipes de modération. Et quelques mois plus tard, rappelez-vous, Elon Musk a fanfaronné sur Twitter en disant « Depuis que j'ai viré les deux tiers des effectifs, le service fonctionne toujours. Twitter va bien. » Alors, financièrement, c'est faux, mais d'un point de vue fonctionnel, l'argument d'Elon Musk, c'est de dire « Vous voyez, quand on vire plein de gens, le service fonctionne toujours aussi bien pour les usagers. » Donc dans la sphère trumpienne, dans la sphère libertarienne, dans la sphère de la droite radicale américaine, Elon Musk est un héros de la coupe, du cost killing comme on dit, de la coupe dans les effectifs. Donc ce qu'il a fait et bien fait chez Twitter, il doit pouvoir le faire pour les administrations américaines. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qui est dans leur tête. Vous et moi, on est des Français, donc évidemment on est biaisés. On considère qu'avoir viré une grande partie de l'équipe de modération, c'est pas un bienfait. C'est pas une bonne chose pour Internet au général et pour Twitter en particulier. Mais dans l'idée de Musk, si, c'est très bien. Petit jeu de massacre. Ouais, exactement. Exactement. Donc, on verra la suite des nominations. Alors, le processus américain de la nomination de ces différents responsables est un petit peu différent de celui de la France, puisqu'aux États-Unis, chacun des responsables doit être validé à l'issue d'une audition passée devant le Congrès. Alors, est-ce que c'est le Sénat? Est-ce que c'est la Chambre des représentants? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais plus. Mais il y a un système de validation des candidatures proposées par le président américain. L'idée étant que, aux États-Unis, traditionnellement, à ma connaissance, les gens ont plutôt tendance à se faire valider. C'est le Sénat américain ? C'est le Sénat, ok. Donc c'est devant le Sénat qu'il y a une commission. Est-ce que Donald Trump a le contrôle du Sénat à l'issue de la présidentielle ? Je crois. Est-ce que les Républicains ont le contrôle du Sénat ? On est d'accord, c'est oui, hein ? Oui. Donc, ça devrait n'être qu'une formalité. La plupart du temps, si je ne dis pas de bêtises, quand les présidents américains sont élus, ils ont le Sénat avec eux. La plupart du temps, le Sénat est de leur côté. Et ensuite, ils peuvent perdre le Sénat à l'occasion des midterms. Donc, ça peut rendre les choses plus compliquées dans la deuxième partie du mandat. Mais dans la première partie du mandat, voilà. Bon, à voir si les sénateurs valident quand même les nominations les plus farfelues d'Elon Musk. Non, c'est l'autre. Donald Trump. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie américaine ? Non, parce que l'hégémonie américaine, elle ne dépend pas des nominations au gouvernement. L'hégémonie américaine, elle est économique. Elle est militaire, elle est culturelle. Et ça ne va pas changer demain matin. Ça peut rogner petit à petit, potentiellement. Peut-être que l'Amérique va perdre en influence dans sa guerre commerciale avec la Chine, dans sa culture, etc. Mais c'est pas... Voilà. On verra. Culturellement, c'est fini quand même, non ? Bah, je suis pas sûr, hein. La culture américaine continue à être quand même très très bien diffusée dans le monde. Sa musique, son cinéma, ses jeux vidéo, je veux dire, on attend tous GTA 6, hein. Je ne vois pas la même ferveur pour Flight Simulator 2024 qui sort demain et qui a été développé par un studio français. Alors, hein, les patriotes en carton, là. Ah bah bravo, ah bah voilà. Alors quand c'est Rockstar Games, on applaudit dès demain, on achète le jeu, on joue à GTA, voilà, bravo, bravo le soft power américain. Mais quand c'est français, de chez français, comme ce bijou de Flight Simulator, ils sont où les milliards de joueurs ? Bah voilà. Jean craque. Ah oui, pardon. Non, excusez-moi, ça me tient à cœur. Moi, il y a des sujets politiques qui me tiennent à cœur. Il y a des sujets politiques, j'ai quand même des valeurs, des convictions. Flight Simulator, on touche pas. Je suis désolé, c'est pas possible. Moi, je supporte pas de voir l'Amérique m'empêcher de... Voilà. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Oui, donc on parlait de l'hégémonie américaine. Non, l'hégémonie américaine ne va pas s'arrêter demain matin. Elle peut réduire au fur et à mesure du temps au cours du XXIe siècle, mais pour l'instant, elle reste dominante. Le nom du jeu n'est pas français. C'est normal, c'est pour un éditeur américain. Ah bah Cocorico, hein. Même quand on fait des jeux chez nous, en fait, c'est pour le compte des Américains. Mais commencez pas à chercher la petite bête, hein. J'ai bien compris votre ton sarcastique, là. Flight Simulator, c'est français. Voilà. C'est la qualité, c'est la grandeur, c'est la France. Et pas n'importe laquelle. Celle d'Emmanuel Macron. Calmez-vous. Arkane idem. Oui, Arkane, c'est français. Pour le compte des Chinois. Mais c'est français quand même. Dur week-end. Non, très très bon week-end. Non, très très bon week-end. On était en train de parler de l'actualité politique. Je suis désolé, j'ai un élastique, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui avait parlé du procès de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait le procès de Marine Le Pen, c'est le procès du Rassemblement National dont Marine Le Pen est présidente. Rassemblement National que les enquêteurs suspectent et accusent d'avoir mis en place un système de détournement de fonds publics du Parlement européen à travers les assistants parlementaires du Parlement européen. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, je vous la fais très courte. Quand vous êtes élu député, que ce soit en France ou au Parlement européen, vous avez la possibilité, avec des fonds publics, des fonds de l'Assemblée ou du Parlement européen, vous avez la possibilité d'embaucher un ou plusieurs assistants parlementaires. Un assistant parlementaire étant un contractuel qui est attaché à vous et à votre mandat et qui va vous accompagner dans l'exercice de votre mandat, va vous aider sur le travail de fond sur les textes en discussion, va vous aider à gérer votre agenda, à gérer vos relations publiques, à gérer beaucoup de choses, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. Bref, donc ça, c'est ce qu'on appelle un assistant parlementaire, qu'on appelle plus régulièrement en réalité un collaborateur parlementaire, parce que l'assistant, ça fait vraiment tâche de secrétariat, alors que le collaborateur, il a vraiment un rôle d'accompagnement, y compris sur le fond et dans le travail politique. Bref, on s'en branle de ces histoires. Ce qui compte, c'est que lorsque vous êtes élu, vous avez la possibilité d'embaucher quelqu'un qui va bosser pour vous. Sauf que les règles sont assez claires. La personne que vous embauchez avec l'argent du Parlement européen va travailler pour vous dans le cadre de votre mandat de député européen. Vous avez la possibilité d'embaucher des gens qui vont travailler avec vous dans les locaux du Parlement européen, ce qu'on appelle les accrédités, parce qu'ils ont une accrède, donc ils ont une petite carte magnétique avec leur nom, leur photo, qui leur permet de rentrer dans l'immeuble le matin. C'est pour ça qu'on appelle les accrédités. Ces assistants parlementaires-là, ils vont avoir des bureaux, des ordinateurs, des imprimantes, etc., de quoi travailler, etc. Vous avez aussi la possibilité d'embaucher un collaborateur ou une collaboratrice parlementaire qui va travailler au niveau local, là où vous êtes dans votre pays. Alors nous, la France, ça paraît bizarre parce que le Parlement européen, il est à Strasbourg et à Bruxelles, c'est pas très loin, mais mettez-vous à la place d'un Lituanien, mettez-vous à la place d'un Grec, d'un Portugais. Bon, bah voilà, il peut aussi avoir un assistant parlementaire au niveau local. Au demeurant, ça existe aussi en France. Hein. Je vous rappelle que les députés, ils ont des collaborateurs parlementaires à Paris, mais ils en ont aussi un, en général c'est un, qui travaille, comme on dit, en circo, dans la circonscription d'élection, pour faire le lien avec les électeurs, pour discuter, recevoir le courrier, gérer les histoires locales, etc., machin, caler l'heure de l'invitation du député à s'exprimer dans un discours local à l'occasion d'une célébration de je sais pas quoi, etc. C'est ce genre de boulot-là. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que il se trouve qu'il existe une petite farfouillerie, une petite roublardise, pour faire hommage à un confrère streamer, une roublardise qui consiste à faire embaucher des assistants parlementaires, mais à ne pas du tout les faire bosser pour le mandat. Non. Les faire bosser sur autre chose. Par exemple, les faire bosser pour un parti politique. Ce sont donc des gens qui sont payés sur des fonds publics pour remplir une mission, mais la mission est détournée au profit particulier d'un parti politique. C'est ça qu'on appelle un emploi fictif. Un emploi fictif, c'est une personne qui est payée pour remplir un emploi, mais qui ne le remplit pas. Il fait autre chose. Il peut ne rien faire, il peut bosser pour quelqu'un d'autre. Ou il peut bosser au profit personnel et particulier d'une personne. C'est ça qu'on appelle un emploi fictif. Et c'est exactement ce qui est reproché au Rassemblement National. Au demeurant, le Rassemblement National n'est pas le seul ni le premier à enfreindre la loi en jouant à ce petit jeu. Par le passé, on a connu le RPR de Jacques Chirac, qui avait fait à peu près pareil dans les années 80-90. On a connu aussi le MoDem de François Bayrou, qui a fait pareil au Parlement européen. Et là, c'est le tour du Rassemblement National, qui est suspecté non seulement d'avoir eu des emplois fictifs au Parlement européen, donc des assistants parlementaires qui ne bossaient pas du tout à Bruxelles ou pour le mandat européen, mais qui bossaient à Paris. C'était à Saint-Denis à l'époque. Non, c'était où déjà ? À Saint-Cloud, au siège du Rassemblement National. Et donc voilà. Donc ce serait, je parle au conditionnel, puisque ces personnes sont présumées innocentes, constitutif d'un emploi fictif et d'un détournement de fonds publics. Ce à quoi le Rassemblement National est également accusé, c'est pas seulement d'avoir fait ça un petit peu, c'est d'avoir fait ça beaucoup, au point de créer littéralement un système de détournement. Les enquêteurs ont mis la main, à l'occasion de perquisitions au siège du Rassemblement National, sur des documents, sur des mails, sur des tableurs, où ils ont vu que le parti, semble-t-il, je parle encore au conditionnel, aurait mis en place un système et une architecture permettant de maximiser le détournement de fonds du Parlement européen. Ce que j'ai pas trop compris, c'est que Bardella a fait des fausses preuves. Il s'est fait prendre la main dans le sac, mais tranquille, il va pas être sanctionné. Jordan Bardella n'a pas été cité à comparaître, effectivement, dans le cadre de ce procès. Jordan Bardella a travaillé fictivement, semble-t-il, d'après les enquêteurs, pour un député du Rassemblement National qui s'appelle Jean-François Chalk, pendant 4 mois. Donc c'est un petit détournement de... Voilà. C'est pas... En fait, comment dire ? Les enquêteurs et les magistrats du parquet n'ont pas poursuivi l'intégralité des assistants parlementaires. Ni l'intégralité des élus. Ils ont poursuivi l'opérateur et le donneur d'ordre, qui est le parti politique. Voilà, Jordan Bardella n'est pas poursuivi parce que les enquêteurs estiment que lui n'a pas commis de délit à lui tout seul. Il s'est retrouvé engrené dans un, peut-être volontairement d'ailleurs, dans un système de détournement. D'autres collaborateurs, anciens collaborateurs parlementaires du Front National, ont démontré, ont déclaré aux enquêteurs que ça avait été mis en place à leur insu. En gros, j'ai vu, c'était sur Mediapart notamment, un ancien assistant parlementaire qui dit qu'il a reçu... il bossait pour le parti politique, il bossait pour Florian Philippot à l'époque, qui était numéro 2 du parti, il bossait pour lui, et il a été surpris de recevoir par la poste une fiche de paye à l'en-tête du Parlement européen. Et il dit, mais j'ai jamais signé de contrat, enfin, j'ai jamais bossé pour le Parlement européen, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Il avait touché son salaire, etc., il croyait, mais en fait non. On avait mis à son insu en place un système en lui disant « Mais t'inquiète pas, regarde pas ça, on s'en fout, c'est pas important. » Bon, lui, il se trouve qu'il a trouvé ça important, donc il a parlé aux enquêteurs, il a parlé à la police, etc. Il y a aussi, évidemment, des affaires d'anciens proches de Marine Le Pen qui sont retournées contre elle en la dénonçant. Bon, bref. Toujours est-il que non, Jordan Bardella n'est pas poursuivi, alors qu'il a été, démontré par Mediapart, par les enquêteurs de Mediapart, par les journalistes de Mediapart, que... Non, de Libération, pardon. C'est pas Mediapart, en plus, c'est Libé qui a sorti l'info que Jordan Bardella avait fabriqué de fausses preuves pour essayer rétrospectivement de légitimer son boulot de l'époque. En l'occurrence, comment tu fais pour prouver à des enquêteurs que tu as vraiment été assistant parlementaire ? C'est pas facile, hein ? En réalité, si, c'est très facile si tu es assistant parlementaire. Si tu es assistant parlementaire, tu vas tous les matins au bureau. Donc, tu as ton badge. Déjà, tu peux l'avoir gardé, ton badge de l'époque. Tu as des preuves de dépenses avec ta carte bleue dans les restaurants du quartier, dans le machin. Tu as des mails. C'est con, hein, mais tu reçois et t'envoies des mails toute la journée. Tu as des documents, des notes que tu as prises en réunion. Tu as des Google Drive, tu as des... Enfin bref, c'est facile de prouver que tu bosses, quand tu bosses. Quand tu bosses pas, c'est pas facile. Des témoignages, oui, t'as des témoignages, oui, bien sûr, des témoignages. Des gens qui disent, bah oui, moi je le voyais tous les matins, ce mec-là. Il venait au bureau, enfin, après, je sais pas pour qui il bossait, mais il était là. Physiquement, je l'ai vu pendant plusieurs mois, effectivement, je peux attester qu'il était physiquement dans les locaux, machin, bref. Jordan Bardella, il a présenté devant les enquêteurs un agenda de l'année 2015, à l'époque où il était censé être assistant parlementaire d'un député. Il a présenté un agenda. C'était un agenda avec des avions de chasse. Parce que vous savez, il y a des agendas qui sont décorés avec des photos. Il y a des versions de petits chiens, il y a des versions voiture, il y a des versions moto, et puis il y a les versions avions de chasse. Pourquoi pas ? Au demeurant, pourquoi pas ? Genre vraiment, pourquoi pas ? Donc il a présenté un agenda de l'année 2015 où on voit qu'il a griffonné, qu'il a pris des notes, etc. Dans cet agenda. Le problème, c'est que les journalistes de Libération ont réussi à démontrer que l'agenda, il avait été acheté en 2017. Ils ont même le bordereau de livraison de l'agenda, qui, erreur subtile, a été livré au siège du Rassemblement National. Ça la fout mal quand même. Hein. Et vraiment, tu sais, tu vois le bordereau de livraison, agenda, édition spéciale, avion de légende. Agenda 2015, hein, c'est précis, c'est un agenda de l'année 2015, livré en 2017 à l'adresse du siège du parti du Rassemblement National. Voilà. Alors j'avoue que je sais pas comment Libé a obtenu ce document, hein, parce que franchement, un bordereau de livraison... Pour foutre la main dessus, faut y aller. Ils ont même retrouvé le site internet sur lequel il a été acheté. Une taupe ? Non, je pense pas. Honnêtement, ça m'étonnerait que les gens du RN parlent à Libération. Hein, ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'ils se sont procurés auprès du site internet. En vrai, ils ont contacté les machins du site en disant « Est-ce que vous pouvez nous filer le bordereau de livraison de telle commande qui a été faite à telle année ?» Ou peut-être qu'ils ont fait une requête. Peut-être qu'ils ont fait une requête et que c'est obligatoire pour le site internet de prouver... je sais pas, je trouve ça étrange. Écoutez, je sais pas. Voilà, les journalistes qui font de l'investigation sont quand même des gens meilleurs que moi. Ils savent ce qu'ils font, moi je sais pas. Mais ils ont réussi à obtenir la preuve que l'agenda qui a été présenté par Jordan Bardella, et on a confirmé que c'était bien lui qui avait écrit hein, dans l'agenda, n'avait pas été livré avant 2017, donc c'était pas un agenda de 2015. Donc c'est non seulement une fausse preuve, mais c'est aussi potentiellement un faux en écriture, ce qui est un délit. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, que vous n'avez pas le droit de fabriquer des documents faux. Si un enquêteur démontre devant un juge que vous avez fabriqué un document, vous pouvez tomber pour faux en écriture, faux usage de faux, etc. Ah non, si oui, je vous confirme, hein, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire un faux PV d'Assemblée Générale d'une association pour essayer rétrospectivement de justifier des fonds, par exemple. Et du coup, il sera inquiété pour ça. Ça, j'en sais rien. C'est au parquet de décider s'ils poursuivent de manière complémentaire Jordan Bardella pour la fabrication de ce document. Ou de modifier des fiches de paye. Non, vous n'avez pas le droit. Est-ce qu'on peut faire une attestation d'hébergement pour un ami ? Si ton ami est pas hébergé, enfin si ton ami n'est pas effectivement hébergé chez toi et que tu lui fais quand même une déclaration d'hébergement, pour une raison X ou Y, si ça se retrouve dans une procédure pénale et que des enquêteurs de police remontent le truc et démontrent que le document que tu as produit est un faux, alors éventuellement tu peux être poursuivi. Voilà. Mais encore une fois, il faut des scies, et avec des scies on coupe des arbres. Mais oui, non, vous n'avez pas le droit d'antidater des documents. Antidater un chèque, par exemple, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'antidater, machin. Alors, je sais que beaucoup de gens le font, je sais que faire des fausses fiches de paye pour réussir à trouver un logement, tout le monde le fait, etc. Sachez que dans l'absolu, ça peut être constitutif d'une infraction. Libre à toi de prouver qu'il dort chez toi. Non mais voilà, après si tu veux mentir aux enquêteurs à l'occasion d'une audition, là tu rentres dans un autre problème. Hein. Parce que si tu attestes par écrit avoir hébergé un mec, que tu jures la vie de ta mère qu'il a vraiment dormi chez toi, mais que les enquêteurs réussissent à démontrer que non seulement il ne dormait pas chez toi, mais qu'en plus il a commis un délit ou un crime pendant le truc... Intérêt à croire tes potes. Intérêt à... Voilà. Tu deviens Jawad. Non, mais voilà, tu vois, Jawad. Jawad, c'est un peu ça, tu vois. Voilà. On m'a dit, c'est des mecs sûrs, je les ai hébergés, tu vois. Bah, ok, Jawad, mais bon, c'est con, ils ont commis des attentats terroristes. C'est quand même malo, hein, Jawad. Mon grand. Est-ce qu'on a le droit de s'inventer un CV avec trois doctorats, c'est pour un ami? Oui, on a le droit si on est très, très, très intelligent. Et je crois que l'ami dont tu parles est extrêmement intelligent. Donc lui, éventuellement, peut-être il a le droit, je sais pas. Il s'en est bien sorti, Jawad ? Il s'en est bien sorti, j'avais pas suivi le procès, effectivement, Jawad, parce que je sais qu'il avait fait de la préventive, quand même. Il était allé en prison, en préventive, mais finalement, à son procès, il a été... Il a été relativement lavé du délit. Ce qui n'est pas impossible, hein, vraiment, c'est pas impossible. Hein, il est possible que l'enquête ait démontré qu'en fait, Jawad était juste un pigeon, ce qui est complètement possible. Qui est juste un peu con et qui a effectivement accepté d'héberger des mecs sans trop savoir qui c'était, sans trop poser de questions. Et bon. Il se trouve que c'était pas les bons mecs là sur ce coup-là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'avoir hébergé des mecs alors qu'il savait pas qui c'était, qu'il savait pas vraiment, qu'il a pas vraiment posé la question, etc. Peut-être que la justice a effectivement reconnu à Jawad une certaine bêtise qui n'était pas constitutive d'un délit à proprement parler. Il n'a pas des trucs au cul pour marchand de sommeil. Ça, c'est possible. C'est possible que par ailleurs, indépendamment de cette affaire un peu sinistre, parce qu'il y a quand même du terrorisme à la clé, peut-être qu'indépendamment de cette affaire, Jawad s'est retrouvé dans le viseur des enquêteurs, disons pour l'ensemble de son œuvre, qui ne m'avait pas l'air d'être de nature à constituer une activité professionnelle régulière, déclarée et licite. Il y avait peut-être quelques arrangements avec l'URSSAF. Tu vois, je voudrais pas accuser un innocent gratuitement. C'est pour ça que je laisse les enquêteurs travailler et la justice tranchera. TLDR, un peu con, Jawad. Oui, voilà, je crois que c'est la conclusion à laquelle on peut effectivement arriver. Jawad ne fait pas la preuve d'une complète maîtrise de son intellect. Ce qui est fort dommageable pour le garçon d'un point de vue humain, et ce qui est potentiellement dommageable au point de vue de la loi, mais ça, il ne nous revient pas d'en décider. HPI non pratiquant. Je la connaissais pas. HPI non pratiquant. On va la garder. Et ouais. On va s'arrêter là. Ça me paraît, voilà, je pense que le diagnostic est posé. Voilà, merci, bravo pour cette trouvaille, je l'avais pas, on va la garder. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, autre sujet important, les amis. Autre sujet important. Michel Barnier, dis donc. Michel Barnier. Michel Barnier. Michel Barnier. Il serait pas Premier ministre, lui ? Dis donc. Dis donc. J'ai l'impression, hein ? Je crois que pour le coup, lui, c'est pas un emploi fictif, hein ? Il va tous les matins à l'hôtel de Matignon. Apparemment, il va à son bureau, il utilise les stylos, les feuilles, il utilise le téléphone, Internet de temps en temps. Non, 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 là, on n'est pas sur un emploi fictif. Hein. On est sur un Michel Barnier, effectivement, Premier ministre de tout ce qui est France, quoi. Enfin, toute la zone France. Oui. Mais pour combien de temps ? Michou, Michou, commence à avoir chaud au cul. Hein. Il semblerait qu'éventuellement, peut-être, ça dure moins longtemps que ce qu'avait anticipé le streamer Jean Massier. Qui, lui aussi, est HPI non pratiquant. Enfin, il y a un moment, il va falloir qu'on se le dise. Le mec, il prévoit des trucs, il nous annonce que Michel Barnier va être Premier ministre jusqu'en juin 2025, date à laquelle le RN va le censurer. Que nénénénéni. Que nénéni. Que nénénéni. Il est possible, mon petit doigt m'a dit, alors c'est pas mon petit doigt, c'est le journal Le Monde, mais c'est pareil, mon petit doigt m'a dit que Michel Barnier va peut-être falloir qu'il commence à faire ses cartons. Et avant de lire l'article qui va en parler, faut que j'aille pisser. J'arrive, je reviens, bougez pas, restez concentrés. Bonsoir, Shloubi23. Félicitations, Shloubi23. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais. Enfin, je disais, j'étais en train de me perdre en conjecture autour de la date de fin de mission du dit Michel Barnier. Question de fou. Est-ce que quelqu'un d'inéligible peut être nommé Premier ministre ? Tout à fait. Quelqu'un qui est jugé, qui a une peine d'inéligibilité en cours, peut tout à fait être nommé ministre, puisque ministre n'est pas un mandat. Il n'y a pas d'élection. C'est une nomination. Voilà, on est nommé ministre, on n'est pas élu ministre. Bon, après, si tu nommes un ministre inéligible... Il y a moyen que le Parlement t'en veuille un peu. Pure jalousie. Oui, pure jalousie. Alors, j'ai un article du journal Le Monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le Monde. C'est un petit journal indépendant, local. De la localité de tout ce qui est France, enfin la partie ouest de l'Europe, quoi, et qui fait des articles d'actualité sur un certain nombre de sujets. Je m'intéresse particulièrement à ce qu'ils écrivent sur la question d'actualité politique. Voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir. C'est un fanzine. Oui, c'est un fanzine. C'est un fanzine. Alors, comment la censure du gouvernement est devenue inévitable ? pour le Rassemblement national. Pendant ses premiers mois à Matignon, le Premier ministre Michel Barnier a gouverné sans égard pour les lignes rouges fixées par Marine Le Pen. Rappelez-vous les lignes rouges en septembre. La chef de file des députés RN pourrait censurer le gouvernement en décembre lors du retour du budget à l'Assemblée nationale. Et là, il y a une vague d'émoi dans le chat qui ne s'attendait pas à cette nouvelle. Et je la comprends tout à fait. À défaut du moindre succès politique, le Rassemblement national en est réduit à fêter ses revers. Réuni mardi 12 novembre dans un salon parisien pour la soirée de lancement du livre de son président Jordan Bardella, plusieurs députés trinquaient au rejet, quelques heures plus tôt par l'Assemblée nationale, de la première partie du projet de loi de finances pour l'année 2025, expliqué par Jean Massier sur sa chaîne Twitch. Les élus d'extrême droite peuvent bien exagérer leur joie d'enterrer un texte qui fait la poche aux Français après sa transformation par la gauche en asile fiscal. Ce vote, et la remise en main consécutive du budget par le Sénat, a scellé l'échec du RN et de sa stratégie de pression sur le gouvernement de Michel Barnier. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que pour que les élus RN se retrouvent contraints et forcés de voter contre le budget défendu par le gouvernement de Michel Barnier et amendé par la gauche, c'est bien qu'ils n'ont pas réussi à faire pression sur le gouvernement de Michel Barnier pour faire adopter leurs propres amendements. Et c'est là qu'on voit le caractère finalement assez tactiquement intelligent de la Macronie qui consistait à ne pas être présent dans l'hémicycle pendant les débats, de manière à laisser la gauche faire. Eh ouais, la gauche fait passer ses amendements, très bien, ça nique le RN. Du coup, le budget est rejeté, il va être travaillé par le Sénat. Et de toutes les manières, on suppose que la version du texte sur laquelle le gouvernement va engager sa responsabilité sera plus proche de celle du Sénat que celle de l'Assemblée. Malin. À peine entré à Matignon le 5 septembre, le Savoyard, Michel Barnier donc, avait été placé sous surveillance par l'ex-Front National. Rien désormais ne peut se faire sans nous, plastronnait Jordan Bardella, après avoir fait barrage à d'autres prétendants à la direction du gouvernement. Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, Xavier Bertrand. On s'en souvient. Avec Michel Barnier, le RN tolérait un adversaire susceptible, selon le mouvement, de servir ses intérêts à court, voire moyen terme. Faute de majorité à l'Assemblée nationale, l'ancien commissaire européen ne devrait-il pas sa survie au respect des lignes rouges édictées par la chef de file des députés RN, Marine Le Pen, sur la forme, lui ouvrir la porte des discussions gouvernementales, et sur le fond, faire droit à plusieurs de ses demandes en matière de sécurité ou d'immigration? Bonne question. Très bonne question. C'est peu dire que Michel Barnier s'est affranchi de cette menace. Sa méthode de gouvernement maintient le RN aux marges du pouvoir. Dans un automne monopolisé par les textes budgétaires, l'extrême droite n'a, pour le moment, jamais influencé les positions de l'exécutif. Ou sans pouvoir s'en prévaloir. Ces quelques amendements votés en séance ont été balayés par le rejet de la partie recette du PLF. Et quand le gouvernement a concédé un volte-face sur l'indexation des retraites, il a laissé d'autres, Laurent Wauquiez notamment, on s'en souvient, chef de file des députés du Parti Républicain, le soin de s'en attribuer la paternité. En fait, le RN, depuis septembre dernier, il s'en mord un peu les doigts de ce gouvernement Michel Barnier, qui n'est pas tant aux ordres du RN que ça. Il y a eu quelques symboles. On se souvient du fait, par exemple, que le ministre de l'économie, Antoine Armand, a dit que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain et que Michel Barnier s'était excusé au téléphone auprès de Marine Le Pen. Très bien, mais ça, c'est du symbole. Dans les faits, sur le fond, qui est-ce qui tire la couverture à lui sur les questions sécuritaires? C'est le ministre Bruno Retailleau. Qui est-ce qui tire la couverture à lui sur les mesures de pouvoir d'achat? C'est Xavier Bertrand. C'est Laurent Wauquiez. Donc, le RN se retrouve effectivement marginalisé. Il se croyait au centre du jeu. En réalité, pas tant que ça. Pendant ses premiers mois à Matignon, Michel Barnier a fait sans l'extrême droite, comme il a fait sans la gauche. Ne témoignant par ailleurs guère plus d'égard à leurs exercices de fond qu'à celles relatives à la forme. Leurs exigences de fond qu'à celles relatives à la forme. Le RN, qui refusait d'être traité en paria, n'a jamais été consulté sur les textes du gouvernement. Et quand les siens ont été à l'agenda, les textes du RN, le 31 octobre, à l'occasion de la niche parlementaire du parti, ils n'ont récolté des ministres qu'une stricte opposition, reçue par leur auteur comme une énième marque de mépris. Difficile en l'état pour le RN de justifier plus longtemps la non-application de la sanction promise à un Premier ministre sourd à ses revendications, la censure. s'achemine dans mon esprit. Les bonnes intentions sont restées en grande partie des promesses non tenues, a prévenu Marine Le Pen le 12 novembre. Donc déjà le 12 novembre, ça commençait à craquer. Marine Le Pen commençait à dire aux journalistes, en vrai, Michel Barnier, il ne respecte pas le RN, il ne respecte pas nos majorités, il ne respecte pas nos propositions de loi, il ne respecte pas nos amendements, ou alors très peu. Il y a moyen qu'on le censure. La sentence pourrait advenir au mois de décembre, lors du retour du budget à l'Assemblée. Michel Barnier a confirmé qu'il engagerait probablement la responsabilité de son gouvernement par un déclenchement de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption du texte sans vote. L'occasion rêvée de faire tomber un gouvernement pour ceux qui l'accusent de mépriser l'opposition ? C'est devenu inévitable, considère l'eurodéputé Philippe Olivier. Le conseiller de Marine Le Pen rappelle qu'elle seule tranchera, mais son opinion semble désormais faite. La situation de Michel Barnier était de toute façon insoluble, développe au passé M. Olivier. Qu'importe qu'il soit ou non courtois, l'absence de tout socle politique l'empêche et l'empêchera toujours de concéder à notre égard le moindre mouvement sans s'aligner une partie de sa petite base. S'il fait un geste sur le pouvoir d'achat, la droite le sanctionnera. S'il en fait un sur l'immigration, ce sera le centre. C'est une vision cynique de Philippe Olivier, eurodéputé RN, mais qui n'est pas si fausse que ça. Il est de se dire, de toutes les manières, c'est pas forcément contre nous. C'est juste que Michel Barnier, il est pieds et poings liés. Il peut pas nous accorder quoi que ce soit, sinon il va se faire allumer par son centre. Il peut pas accorder quoi que ce soit à la gauche si on se fait allumer par sa droite. En vrai, c'est un peu plié pour Mich-Mich, hein. Le NFP votera-t-il la censure du gouvernement proposée par le RN ? Je ne pense pas. Est-ce que le RN n'a pas intérêt à attendre la fin du procès en cours avant de tenter de renverser le gouvernement ? Parce que ça servirait de diversion si Marine Le Pen est condamnée. Ce que tu dis n'est pas faux, en même temps on pourrait contre-argumenter en disant qu'elle aurait au contraire intérêt à le faire maintenant pour court-circuiter sa condamnation, en vrai. Son hypothétique condamnation qui devrait tomber dans les semaines qui viennent. Donc, qu'elle le fasse en décembre, en janvier, enfin je veux dire, si elle le fait en décembre, il y aura encore des négociations en janvier sur l'identité du prochain Premier ministre, hein. De toute façon, on en parle après. Longtemps, le RN a justifié le sursis accordé à Michel Barnier par un souci de la stabilité des institutions et la crainte que sa chute ne fasse émerger un Premier ministre plus favorable encore à l'extrême droite. Non, plus défavorable encore à l'extrême droite. Ça, c'est le fameux argument qu'on avait déjà analysé, vous et moi, sur le RN qui se dit plutôt Barnier que Castex. Sous-entendu, on sait que le Premier ministre n'a pas RN, parce que de toute façon, on n'a pas assez de députés pour avoir un Premier ministre. Mais quitte à choisir, si on a que ça comme choix, on préfère un Premier ministre de droite placé sous la coupe du RN plutôt qu'une Lucie Castex qui, elle, n'hésitera pas à nous rentrer dedans et à balayer absolument tout sans réfléchir. Des arguments chaque jour plus difficiles à défendre auprès d'électeurs désireux de faire tomber l'exécutif et auxquels les élus ne peuvent plus, pour le moment, apporter aucun des trophées programmatiques de Marine Le Pen, se promettait d'arracher à Matignon. Bah oui. Parce que là, pour l'instant, elle est humiliée, Marine Le Pen. C'est un peu compliqué vis-à-vis de ses électeurs, elle. La triple candidate à la présidentielle goûterait peu, par ailleurs, les bruits de couloirs gouvernementaux sur un possible manque de courage de sa part face à la censure. Attends, je vais la relire, celle-là, parce qu'elle est bonne. La triple candidate à la présidentielle goûterait peu. Par ailleurs, les bruits de couloirs gouvernementaux sur un possible manque de courage de sa part face à la censure. C'est-à-dire qu'en gros, depuis septembre, t'as des conseillers du gouvernement qui disent en off à des journalistes « Non mais en vrai, elle a pas de couilles. Elle censurera jamais. Ouais, aucun courage, Marine Le Pen. » À mon avis, ça doit l'énerver, ça, Marine Le Pen. Ça, je peux comprendre qu'effectivement, elle goûte assez peu. Ceux qui sont confiants ne devraient pas l'être tant que ça, prévient la députée du Pas-de-Calais. Mais une menace ne vaut-elle pas uniquement si elle était mise à exécution ? Point d'interrogation moqueur de la part de Corentin Le Sueur. l'auteur de cet article de Le Monde. Non, mais ouais, ça pose la question du timing. Ça pose la question du timing, c'est-à-dire que si Marine Le Pen censure Michel Barnier, à mon avis, Emmanuel Macron va pas pouvoir nommer un autre Premier ministre, parce que rappelez-vous le psychodrame de l'été dernier, on s'en souvient. Enfin, je veux dire, c'est inextricable. La situation est inextricable. Donc, on se retrouverait sans doute avec un Michel Barnier qui serait maintenu en poste dans un gouvernement démissionnaire d'affaires courantes jusqu'en juin, date de la prochaine dissolution. Macron démission, ça changerait rien. Donc ouais, ouais, gouvernement technique. Chargé d'appliquer... Ah oui, mais putain, il n'aura pas de budget. C'est que si le 49-3 est adopté... Si le 49-3, c'est une censure qui passe, ça veut dire qu'on n'a pas de budget, ça veut dire que le gouvernement démissionnaire peut prendre le budget par ordonnance. Et pas de changement de mode de scrutin. Bah, probablement pas, non. J'entends que le gouvernement engage sa responsabilité en cas de 49-3, mais concrètement, c'est quoi les conséquences ? La conséquence de l'engagement d'une responsabilité ministérielle, c'est le départ du gouvernement. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du droit constitutionnel, la censure. La censure d'un gouvernement, le gouvernement est renvoyé. C'est ça la conséquence, quand on dit engager sa responsabilité. Quand le gouvernement dépose un projet de loi, propose aux députés d'en discuter, etc., si le projet de loi est rejeté, bah, le gouvernement il saute pas, le gouvernement il reste en place. Il est triste parce qu'il a raté sa loi. Il voulait une belle loi, bon bah c'est raté, les députés ont pas voulu. Mais techniquement le gouvernement il est toujours gouvernement. Il n'engage pas sa responsabilité. Sur un 49-3 en revanche, le gouvernement engage sa responsabilité. Et du coup Macron doit renommer un nouveau Premier ministre et attendre que celui-ci refasse un gouvernement. Ouais. Absolument. Si Marine Le Pen est condamnée à une inéligibilité, devra-t-elle démissionner de son poste de députée ? Non. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si Marine Le Pen, députée en exercice, écope d'une peine effective d'inéligibilité, ça veut dire pas de sursis, et avec un machin exécutoire là. Marine Le Pen pourra rester en poste députée tant que les voies de recours n'ont pas été épuisées. Voilà. Est-ce que vous voyez un monde où Macron nomme Castex en cas de censure ? Je pense que c'est possible. À condition qu'il n'y ait pas de député insoumis dans le gouvernement, qu'il n'y ait pas de ministre insoumis, d'une part, et d'autre part, le groupe Renaissance à l'Assemblée sera intraitable avec le NFP sur les amendements. Parce que je vous rappelle que le NFP a besoin des macronistes pour gouverner ce pays. Aujourd'hui. Ça pourra changer demain, mais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un monde où Macron nomme Jean Premier ministre en cas de censure ? Écoute, je me demandais pourquoi le secrétaire général de l'Élysée n'arrêtait pas d'essayer de m'appeler depuis ce matin. C'est peut-être pour ça. Faut que je vois. Faut que je les rappelle. Je leur ai dit envoyez-moi un mail. Est-ce que Macron pourrait convaincre le Congrès pour modifier la Constitution pour organiser de nouvelles élections avant la fin du délai d'un an si Barnier tombe et que la galère recommence ? Non. Non, parce que pour modifier la Constitution, ça prend plusieurs mois. Hein. C'est long, le processus est long. Il faut une adoption dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, puis une convocation du Congrès. Donc voilà, tiens, d'ailleurs, en termes de réaction, du coup, j'ai aussi trouvé cet article sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement Barnier va tomber entre le 15 et le 21 décembre. Donc on est sur une expérience de Madame Irma. Au doigt mouillé, ça tomberait entre le 15 et le 21 décembre, selon Jean-Luc Mélenchon. En fait, il a juste lu l'agenda de l'Assemblée nationale, parce que c'est entre ces dates-là que sera examiné les éventuelles motions de censure à l'issue du 49-3. Si d'aventure le 49-3 était déclenché dès le retour en deuxième lecture du texte à l'Assemblée. Invité ce dimanche de France 3, l'ancien candidat LFI à la présidentielle a rappelé que Lucie Castet, première ministrable de la gauche, restait la prétendante du nouveau Front populaire à Matignon. Le gouvernement de Michel Barnier va-t-il tenir longtemps ? Nommé il y a 2 mois et demi à Matignon après de très longues séquences politiques des législatives anticipées suivies de la recherche d'un Premier ministre, le Savoyard a su, grâce à une fragile alliance entre la droite et le camp présidentiel, se maintenir pour l'instant contre les deux blocs d'opposition. Si les discussions sont parfois houleuses à l'Assemblée nationale, entre le nouveau Front populaire et le bloc nationaliste, Rassemblement national et Ciottiste, Michel Barnier trace son sillon, y compris en cette période de débat budgétaire. Oui, vite fait, hein, le sillon. Alors qu'il a annoncé cette semaine son probable recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances de 2025, Michel Barnier s'attend à une, voire plusieurs motions de censure pour le faire tomber dans la foulée. La gauche en déposera une. Le parti à la flamme, le RN, cache davantage son jeu, mais s'il ne montre pas pour l'instant une volonté de renverser l'ancien négociateur en chef du Brexit, Si la pérennité du gouvernement dépendra de la position des troupes de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, lui, en est persuadé, il ne va pas durer. Invité ce dimanche de France 3, l'ancien candidat insoumis à la présidentielle a jugé que l'équipe en place va tomber entre le 15 et le 21 décembre prochain. Dans ce scénario, la figure tutélaire de la France insoumise assure qu'Emmanuel Macron devra choisir un nouveau Premier ministre. L'occasion de rappeler solennellement que Lucie Castet reste la candidate du NFP pour Matignon, malgré le refus du président de la République de la nommer à la fin du mois d'août au nom de la stabilité institutionnelle. C'est la position des insoumis, pas celle des socialistes. On a passé des heures à discuter de ça, on ne va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, a-t-il lancé. Attends, c'est la position des insoumis, pas celle des socialistes. Les socialistes, ils ont déclaré que Lucie Castet n'était plus leur candidate ? J'ai pas entendu Olivier Faure dire ça, hein. Mais c'est possible. C'est peut-être les députés, remarque. Évoquant un autre scénario politique, celui d'une destitution, à ce jour très improbable, d'Emmanuel Macron, et donc d'une présidentielle anticipée. L'ancien député de Marseille laisse apparaître davantage ses ambitions. Compte tenu de son rôle moral éminent à l'intérieur du mouvement insoumis, Jean-Luc Mélenchon dit participer activement à la stratégie. Si c'est une élection qui a lieu tout de suite, sans doute que je peux être incité à y aller. Mais si c'est en 2027, nous avons une relève suffisante, a développé Jean-Luc Mélenchon, qui a répété avec un sourire en coin son souhait d'être remplacé. Vous faites tous comme si ce n'était pas le cas. Parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes légitimes. L'avenir de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la question du renversement du gouvernement Michel Barnier. Jean-Luc Mélenchon en a l'air persuadé. On verra. Hollande est un simple député, son avis ne pèse pas. Il a une petite influence quand même, Hollande, au sein du PS. Hollande n'est pas du même avis que Faure. Ah, c'est Hollande qui a déclaré que Lucie Castet n'était plus la candidate du NFP. Ouais, mais Hollande, il est pas chef de parti, hein. Il est même pas chef de la minorité, PS. Perso, je vois la majorité imploser avant tout ça. Bah ça, on verra. J'ai hâte de voir l'ambiance à gauche quand Lucie Castet sera première ministre. Ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Quelle majorité? La majorité relative qui soutient Michel Barnier. Nouvelle dissolution en mai 2025, selon vous. Ça dépendra du sort de Michel Barnier, là, à l'occasion du budget. Hein. Et ça dépendra de la décision de Marine Le Pen. Toute l'aile gauche de la Macronie qui va partir chez Place Publique comme Aurélien Rousseau. Bah ouais, vous pouvez vous moquer d'eux, mais vous avez besoin d'eux, en fait. Genre, vous rigolerez moins hein, quand vous serez au gouvernement et que vous aurez besoin de leur vote. Et les traités de SOSDEM, ça améliorera pas les choses. Hein. Il devient quoi, Mich-Mich, s'il se fait censurer? Rien. Rien. Rien, il est pas député, il est pas élu. Trop bizarre d'appeler ça une majorité. Ah bah une majorité relative, c'est une majorité quand même. Hein. C'est une majorité faible, mais c'est une majorité quand même. De Courson is not okay. Je sais bien, mais c'est normal, c'est dans son jeu. Je sais pas si j'y crois, moi, à cette théorie de la motion de censure adoptée à l'occasion du budget en décembre. Je suis persuadé que Michel Barnier va avoir recours au 49-3, parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Le texte a été rejeté en première lecture. On va pas s'amuser à risquer une crise. Non, non, il va engager sa responsabilité pour mettre tout le monde au pied du mur. Est-ce que Marine Le Pen va accepter de dégainer tout de suite en votant une motion de censure déposée par la gauche? Je sais pas. Je pense pas. Je réfléchis. Peut-être que Marine Le Pen... Dans une stratégie de la terre brûlée, peut-être que Marine Le Pen a intérêt à ce que la gauche soit au pouvoir. Hein. En vrai. Franchement, elle a peut-être intérêt à ce que la gauche soit au pouvoir. Voir les insoumis sur les plateaux télé essayer de justifier les actions d'un gouvernement sur la grève des agriculteurs qui seront sur toutes les routes, etc. Marine Le Pen, elle va boire du petit lait. Parce qu'elle va pouvoir se présenter comme l'alternative. Là, aujourd'hui, la situation de Michel Barnier, peut-être que Marine Le Pen, ça l'arrange pas trop hein, d'avoir un Bruno Retailleau qui est plus à droite que la droite, qui dit des dingueries, etc. Elle est pas très contente, elle, de voir qu'est en train de se développer une autre droite que la sienne et tout. En vrai... Laisser la gauche gouverner jusqu'en 2027, voir la gauche se casser la gueule dans l'opinion publique d'ici à 2027 avec l'impopularité qui vient avec le gouvernement, etc. Machin, les engueulades quotidiennes entre les différents partis de la gauche. Bref, Jospin 97-2002. 5 ans de pouvoir éreintant pour le PS. La gauche divisée, etc. En vrai, Marine Le Pen, c'est peut-être dans sa tête le mieux qui puisse arriver au RN, c'est que la gauche soit au pouvoir pour qu'en 2027, elle soit élue. Les macronistes, on a essayé, c'est de la merde. La gauche, on a essayé, c'est de la merde. Il ne reste plus que moi. Ce sera ça, son discours. Si elle est éligible. Oui, si elle est éligible. Je pense qu'elle s'en sortira. Est-ce qu'il ne faudrait justement pas mettre Bardella Premier ministre pour montrer qu'ils ne peuvent rien faire non plus? Tu peux pas mettre Bardella Premier ministre, il n'a pas d'alliés. Les macronistes, ils ont un allié. Je vous rappelle qui s'appelle le Rassemblement National, qui a accepté de ne pas voter les motions de censure, en tout cas c'est ce qu'ils ont déclaré. Alors ça va peut-être changer là en décembre, mais... Marine Le Pen peut pas avoir le pouvoir parce qu'elle serait censurée par le bloc central et la gauche. La gauche peut pas avoir le pouvoir parce qu'elle serait censurée par le bloc central et l'extrême droite. Michel Barnier peut avoir le pouvoir puisque Marine Le Pen accepte de ne pas le censurer. En tout cas pas tout de suite. De même, tu peux pas mettre Castet, elle n'a pas d'allié. Alors, je suis d'accord avec toi, Lucie Castet n'a pas d'allié, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer si Emmanuel Macron décide que ça change. Je vous rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a annoncé que Lucie Castet, si elle était nommée Première Ministre, elle serait censurée. Annonçant par là même qu'il avait l'intention de la censurer, donc il ne voulait pas qu'elle soit Première Ministre. Admettons. Admettons que Emmanuel Macron... Non, admettons que Michel Barnier soit censuré. Admettons, très bien. Michel Barnier est censuré, ok. L'attelage macroniste LR n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui reste comme option à Emmanuel Macron ? Il lui reste une option, c'est de casser le NFP. C'est de briser le NFP. C'est de dire j'accepte de faire un gouvernement avec les socialistes, les écologistes et les communistes. Mais pas les insoumis. Il va faire ça, il va jouer ce jeu-là. Il va jouer ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il va, il va lancer le ballon d'essai dans la presse, il va laisser ses conseillers faire courir le bruit, etc. Et le but, c'est de mettre sous tension la gauche pour voir comment ça réagit. Et là, ça peut éclater. Tu peux avoir la moitié du PS qui fanfaronne en disant « oui, c'est une très bonne idée », l'autre moitié du PS qui dit « non, c'est une folie », les écologistes qui ne savent pas où se mettre, LFI qui vitupère et qui fait peur à tout le monde. LFI avait déjà proposé. Non, LFI avait proposé un soutien sans participation, c'est-à-dire un gouvernement NFP auquel ils auraient apporté leur soutien sans y avoir de membres de la France Insoumise à l'intérieur du gouvernement. Hollande, ministre de l'économie, la boucle est bouclée. Oh, j'avoue, je rigolerais beaucoup. Le sens de l'humour serait splendide. C'est quoi la différence ? C'est que LFI, en annonçant un soutien au gouvernement, même sans participation, annonce qu'il a l'intention de suivre et de voter les projets de loi déposés par le gouvernement, à condition que les projets de loi coïncident au projet du nouveau Front populaire qui a été négocié entre les quatre partis. En gros, Jean-Luc Mélenchon se place comme la vigie et le garant extérieur du gouvernement Castet. J'en avais parlé à plusieurs députés hors de la France Insoumise à l'époque où il avait annoncé ça, le soutien sans participation. J'aurais dit « qu'est-ce que t'en penses ?» Il m'avait dit « putain, c'est hyper habile de sa part ». Il a trop raison de faire ça, Jean-Luc Mélenchon, parce que du coup, il ne se mouille pas. LFI ne participe pas au gouvernement. Donc LFI, quelque part, n'est pas tout à fait responsable de ce qui se passe. Donc l'impopularité, etc., machin, pas nous, on joue pas. Et en même temps, en un tweet, on peut foutre le bordel dans les arbitrages du Premier ministre. T'imagines ? Chaque interview de Jean-Luc Mélenchon sera une sanction pour le Premier ministre. Qui va dire ça, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Ça on soutient pas ça. tous les équilibres précaires que tu as réussi à négocier dans les réunions d'arbitrage, les réunions interministérielles, etc. Donc pour éviter ça, le gouvernement peut dire, enfin Emmanuel Macron peut dire à la gauche, séparez-vous de Jean-Luc, formellement, hein. Et à ce moment-là, vous pouvez gouverner. Comme Le Pen sous Barnier, finalement. Ouais, mais pas tout à fait. Parce que Marine Le Pen, la menace de Marine Le Pen sur la censure de Michel Barnier, c'est le fait qu'elle peut voter une motion de censure déposée par la gauche. Ce qu'elle a déjà fait par le passé, sans problème. Le RN vote les textes de gauche. Hein. Alors attention, calmez-vous. Le RN ne vote pas tous les textes de gauche, mais les motions de censure déposées par la gauche par le passé ont été votées par les députés RN. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'inverse n'est pas vrai. Donc Jean-Luc Mélenchon, s'il veut faire tomber un gouvernement... de gauche associée à la Macronie, devra accepter de voter une motion de censure déposée par le RN. Ou alors d'en déposer une lui-même, hein, remarque. On verra si le RN accepte de la voter, à mon avis, s'enfronteront les droits. La gauche qui fait ça se tire une balle dans le pied pour les prochaines élections et ils le savent. De quoi ? La gauche qui fait quoi ? Qui participe à un gouvernement ? Un gouvernement avec Macron ? Ouais, effectivement. Mais on en revient... On en revient à la question d'ailleurs qui se pose à peu près systématiquement dans ce genre de cas. Est-ce que le but du jeu, c'est de gagner les prochaines élections ou est-ce que le but du jeu, c'est de changer le quotidien des Français le plus vite possible et autant que possible ? On en revient à la question du cynisme en politique. Hein. Est-ce que le but du jeu, c'est de se dire, bah, tu sais quoi, autant garder Barnier le plus longtemps possible et arriver en sauveur à la prochaine élection ? Tous les politiques veulent juste gagner des élections. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Enfin, vous avez le droit de détester les politiques au point de voir du cynisme absolument partout, tout le temps. Mais la question se pose pas toujours dans ces termes-là, quoi. J'ai aussi du mal à voir le RN censuré. Là, en décembre, là. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir à haute voix pour savoir est-ce que Michel Barnier va effectivement perdre son poste aussi vite que décembre 2024. Vouloir gagner une élection, c'est pas sale, c'est nécessaire. Ah non, mais je questionne pas les moyens. Je questionne pas la fin, pardon, je questionne les moyens. Est-ce que pour gagner une élection, il est souhaitable que Michel Barnier reste au gouvernement pendant encore 3 ans, quoi ? Concrètement, c'est quoi les mesures phares portées par le PS ? Rien. Absolument rien. On va faire simple. Tout ça pour perdre contre Le Pen. Ah bah ça, on verra. Le second tour Mélenchon-Le Pen, dont rêve Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et il a raison de le rêver, on verra bien ce que ça donne. Pourquoi il a raison de rêver ? Bah, il ferait beau voir qu'il ne le rêve pas. Enfin, c'est normal pour un candidat comme Jean-Luc Mélenchon de souhaiter être qualifié au second tour de l'élection présidentielle, non ? Je sais pas, ça te paraît bizarre ? Bah, il a le droit de le rêver, enfin, il a raison. Comment dire ? C'est tout le bonheur que je lui souhaite. De enfin réussir, après deux essais ratés, à se qualifier au second tour. Trois essais ratés, c'est vrai, oui, trois. Non, mais 2012, je compte pas, parce que 2012, c'était plié. Enfin, voilà. 2012, c'était pas sérieux, on va dire ça comme ça. À partir de 2017, on commence à discuter. C'était le tour de chauffe. Alors 2012, c'était le tour de chauffe, mais il a quand même réussi à obtenir l'investiture du Parti communiste français. Hein. C'est pas le dernier, Jean-Luc Mélenchon, quand il s'agit de négocier des alliances. Et... Bon, en même temps, c'est un vieux briscard du Parti socialiste. Hein. Il a été formé à bonne école, mais il a quand même réussi à obtenir l'investiture du PCF. Hein. Le PRG, ah non, 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 le PRG n'a jamais soutenu Jean-Luc Mélenchon, non. Non, à aucun moment de son histoire. Le Parti radical de gauche, je vous rappelle, c'est un parti de centre-gauche. Ah. Bardella n'aura pas assez de popularité pour gagner une présidentielle en 2027. T'es sûr de ça? T'es vraiment sûr de ça? J'aimerais bien le croire, hein, mais le mec a été tête de liste aux élections européennes, il a fait 33%. Son visage est connu d'à peu près tout le monde. Il sort un bouquin avec une campagne de com absolument stratosphérique. Tout le monde en parle, c'est un des bouquins les mieux vendus et tout. Un bouquin n'a jamais fait un président, je vous l'accorde. Mais Bardella, c'est quand même l'étoile montante de l'extrême droite. Voilà, je veux dire, il est pas loin du sommet, hein. Il est pas loin du soleil là. Il présente bien. Oui, en plus, il a des atouts. Il a des atouts. L'atout de la jeunesse, l'atout de la fraîcheur que n'a pas Marine Le Pen. L'atout de la nouveauté, l'atout de... Oui, non, bien sûr, il a des atouts, hein. T'as un second tour Bardella-Mélenchon. Entre le jeune loup et le vieux briscard. Je sais pas, je suis pas sûr que les Français ils votent Mélenchon. Je suis pas sûr. En plus, Mélenchon, il a un déficit de notoriété à cause de son tempérament. C'est quand même. Voilà, les électeurs qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon, ils l'aiment pas en partie pour la personne qu'il est. C'est dur pour lui, hein. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon fait des. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les campagnes de Jean-Luc Mélenchon sont déjà des campagnes très longues. Il part longtemps avant l'élection et il ponce son image publique et il devient doux comme un agneau pendant toute la campagne. Ça m'a frappé en 2017 et en 2022. À chaque fois, Jean-Luc Mélenchon, il est souriant, il est gentil comme tout, il ricane sur le plateau télé quand on lui rentre dedans, quand on lui fait des piques, etc. Il devient le tonton sympa, le vieux prof d'histoire géo, etc. Et systématiquement, dans les mois qui suivent, ça redégringole d'un coup, il fait des sorties, des dingueries, des hurlements et tout. T'es en mode, oh putain, arrête, pourquoi? C'était si bien. Non. Le soir de la... Oui, c'est vrai que le soir même, dans ta raison, en 2022, il nous a gratiné le soir même de sa défaite. Ouais. Non, c'est particulier. Donc voilà, c'est ça là. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très cartésien, rationnel, excellent politique. Encore une fois, ce mec-là a été élu socialiste pendant des décennies. Autant vous dire que c'est la meilleure école de France pour faire de la politique. J'en sais quelque chose. Jean-Luc Mélenchon fait des campagnes présidentielles spectaculaires en termes de remontée dans l'opinion publique, en termes de dispositifs mis en place. La France Insoumise est une énorme écurie présidentielle, beaucoup plus qu'un parti politique structuré et démocratique comme les autres. C'est une écurie et elle fonctionne vachement bien comme écurie. Une capacité à galvaniser les adhérents que moi, je n'ai pas revu depuis Ségolène Royal 2007, quand même, c'était spectaculaire. François Hollande 2012, c'était pas mal aussi, mais c'était pas tout à fait le même genre de ferveur, parce que comme on sentait tous la fin de règne de Sarkozy, c'était pas exactement pareil. Mais ouais. On change de candidat et c'est la win. Attention, parce que Jean-Luc Mélenchon a pour lui d'être extrêmement bien identifié d'un certain nombre d'électeurs qui ne jurent que par lui. C'est ce que disent les militants insoumis quand ils vont tracter dans les quartiers populaires. Ils disent, s'il y a la tête de Jean-Luc Mélenchon sur notre tract, les gens le prennent. S'il n'y a pas la tronche de Jean-Luc Mélenchon, les gens ils disent, vous êtes qui ? Jean-Luc Mélenchon, c'est une décennie, et même plus, hein, 12 ans maintenant, où il marque les esprits par son visage, par son nom. Si tu le changes en quelqu'un d'autre, je sais pas s'il va réussir à soulever autant les foules. Hein. Et je vous rappelle que la stratégie que Jean-Luc Mélenchon, c'est de tout miser sur les quartiers populaires. Faire voter les abstentionnistes des quartiers populaires. C'est ça la strat de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années maintenant. Il a changé à plusieurs reprises de strat, évidemment, mais ça, on va pas... Il a bien le droit, hein, c'est pas un problème. Mais il a exprimé au cours de l'été dernier, tout misé sur les quartiers populaires. Il a fait ses calculs, d'ailleurs, il le dit. Tain, Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Emmanuel Macron, il suffit de l'écouter. Voilà. Pas la peine de chercher des projets cachés, etc. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Jean-Luc Mélenchon, il le dit dans ses discours, il explique pourquoi, et il a démontré que, selon lui... S'il réussit à faire voter une partie significative d'abstentionnistes dans les quartiers populaires, il peut arriver au second tour. Voilà. Il en est persuadé. Et c'est ça l'un des points de désaccord avec François Ruffin. François Ruffin qui n'est pas d'accord avec ses stratégies et qui dit, mais en fait, n'oublions pas les catégories populaires ailleurs, y compris dans les anciens bassins miniers, dans les quartiers les zones désindustrialisées, les zones rurales, etc. C'est un simple désaccord stratégique, hein, qui, à mon avis, ne mérite pas le niveau d'engueulade qu'il y a entre les deux. Et Ruffin s'en tape des quartiers populaires. Non, Ruffin ne s'en tape pas des quartiers populaires de la même manière que Jean-Luc Mélenchon ne s'en tape pas des zones rurales. Je viens plus compliqué. Est-ce qu'on n'exagère pas le désaccord. Bah, les deux exagèrent le désaccord déjà. Hein. Certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur les zones rurales étaient quand même vraiment méprisantes. C'est possible. C'est possible. T'es en 40 ans de vie publique, il en a dit des conneries, Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il a peut-être changé d'avis, tu vois, c'est possible. Je lis vos messages, hein. Excusez-moi, pardon, je trouve ça intéressant ce que vous écrivez. Mais l'alliance bolivarienne, c'est quand même un truc de fou. Particulier, oui. Sur l'international, Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est pas toujours incroyable. Bon, tout ça ne répond pas à la question de Lucie Castet à Matignon dès décembre prochain, point d'interrogation. Je vous disais donc. Je vous disais quoi? Oui, je vous disais. Michel Barnier engage le 49-3 sur le vote du budget dès son retour à l'Assemblée nationale. Ok? 49-3 veut dire motion de censure déposée. Déjà, première question, est-ce que c'est une motion de censure? Est-ce que la motion de censure qui va être examinée, c'est celle de la gauche ou celle de l'extrême droite? On a déjà vu les engueulades sur le sujet, donc on verra. Motion de censure votée ou pas par Marine Le Pen, celle de la gauche. Si motion de censure adoptée, Emmanuel Macron est face à un dilemme. Enfin, par défaut, évidemment. Mais particulièrement parce qu'il ne peut pas dissoudre. Tout de suite, en tout cas, il doit attendre juin. Donc, est-ce qu'il maintient Michel Barnier dans un gouvernement technique jusqu'en juin? Est-ce qu'il, à mon avis, je sais pas, attends, je réfléchis. Non, parce que je vous disais tout à l'heure, à mon avis, le plus probable, il essaye de fracturer la gauche. Il essaye de fracturer la gauche en refusant de nommer Lucie Castet, mais en proposant de nommer quelqu'un d'autre que Lucie Castet. Donc il nomme quelqu'un d'autre, il met le Parti socialiste au pied du mur, une partie du PS se sent obligée de soutenir ce nouveau Premier ministre, l'autre moitié refuse au nom de la fidélité au NFP, fracturation hydraulique du PS, congrès l'année prochaine qui déchire tout. Et pourquoi pas avec LFI mais sans le programme. Je vois pas pourquoi LFI accepterait qu'on n'applique pas... Tout le programme, rien que le programme, pour citer un grand homme. Justement, c'est ce sur quoi ils vont jouer, le LFI. Et 6ème République en 2026. Bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Dans un pays qui vote aux deux tiers à droite, 6ème République, ouais. Est-ce que c'est un vrai truc constitutionnel, le gouvernement technique? Parce que cet été, ils ont fait plus que d'expédier des affaires courantes, ils ont mis quelques douilles cachées. Non, en fait, un gouvernement technique, c'est pas un gouvernement qui ne fait rien. Ça ne peut pas être un gouvernement qui ne fait rien. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui n'a pas de, comment dire, de marge de manœuvre parlementaire pour faire changer la loi. Donc le gouvernement continue à faire son boulot, c'est-à-dire il prend des décrets. Un gouvernement technique, c'est par définition un gouvernement conservateur au sens de conservation du statu quo juridique. Il ne peut pas faire changer la loi. Il ne peut que prendre des décrets d'application des lois déjà existantes. Donc un gouvernement technique, ça ne veut pas dire un gouvernement de gauche. Mettez-vous ça en dehors de la tête. Ça veut dire un gouvernement qui continue à faire ce que le gouvernement faisait avant. Il n'y a pas d'initiative politique. Il n'y a que des prises de décision un peu bêtes et méchantes. Le ministre de l'Éducation nationale organise la rentrée scolaire. Voilà, bon, bah, les rentrées scolaires, elles se ressemblent un peu toutes. Il n'y a pas de grande réforme cette année. Parce que de toute façon, il y en a rarement. On continue avec les enveloppes budgétaires qui sont prévues et qui sont disponibles. Donc on fait des suppressions de postes de profs dans les académies dans lesquelles il y en a trop. Enfin, tu vois, on continue à gouverner, quoi. C'est un gouvernement qui stagne. Un gouvernement de moindre mal. Ouais, c'est ça. Il se passe quoi côté budget en cas de censure? Le budget 2024 est reconduit. Alors, pour moi, il y a effectivement des mécanismes dans la loi organique de 2001 sur les lois de finances qui prévoient la possibilité de reconduire les crédits déjà votés l'année passée. En tout cas pour les autorisations de dépenses. Pour les recettes, on en rediscute, mais pour les autorisations de dépenses, pour moi, il y a un principe de reconduction. C'est-à-dire qu'on voilà, on fait bosser les ministères avec le même budget que l'année dernière, faute de budget nouveau. Ceci étant, il y a des possibilités, et notamment sur ces engagements de crédit, ça se fait par ordonnance. Le gouvernement a le droit de prendre des engagements de crédit par ordonnance en cas de rejet du budget. Le but étant d'éviter le shutdown américain, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus d'argent, on ne peut plus payer les salaires, etc. Enfin bref, c'est pour éviter ce blocage un peu absurde et un peu dangereux. Hein. En France, on a des systèmes un peu de reconduction d'enveloppe. La seule question que je me suis toujours posée, parce qu'encore une fois, tout ça n'est jamais arrivé, c'est qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe si l'ordonnance n'est pas ratifiée? Parce que le principe d'une ordonnance... C'est qu'en principe, tu as une autorisation préalable, mais ça, on peut admettre que l'autorisation préalable, elle est postulée. Mais pour qu'une ordonnance continue, il faut quand même qu'il y ait une loi de ratification à un moment. Donc à un moment, au mois de janvier-février, les députés vont quand même devoir voter un truc. Mais qu'est-ce qui se passe si les députés rejettent l'ordonnance? Je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment du vote de l'ordonnance, ce n'est pas qu'une loi de ratification blanche ou noire, en mode vote pour, vote contre. C'est une possibilité pour les députés d'amender. Donc il y a une possibilité d'amender rétrospectivement et en cours d'exercice le début du budget. Tout ça est extrêmement technique, j'en suis bien conscient, je suis désolé. Mais les questions que vous posez sont des bonnes questions. Les réponses qu'on peut y apporter sont difficiles, notamment quand on rentre dans les eaux troubles d'un truc qui n'est jamais arrivé. Mais ce qui nous arrive actuellement en France n'est jamais arrivé, hein. Une assemblée nationale tripolarisée, à ce point-là, jamais arrivée. Rappelez-vous, en 1986, vous pourrez plus vieux d'entre vous, 1986, élection législative, les sondages donnent le RPR gagnant. À l'époque, il y avait quand même des constitutionnalistes qui étaient interviewés dans les médias, on leur demandait, mais qu'est-ce qui se passe si le Premier ministre n'est pas de la même couleur politique que le président de la République? Est-ce que c'est possible? Et à l'époque, il y avait des juristes qui répondaient « non, c'est impossible ». Ce n'est pas possible. La Constitution a été écrite dans un cadre, dans une pensée qui était celle du général de Gaulle. Jamais on a imaginé la possibilité que une cohabitation, c'est impensable. Ce sera un blocage des institutions, une crise politique grave et la nécessité de réécrire la Constitution. Il y avait des juristes, des constitutionnalistes qui disaient ça. Ils avaient ni raison ni tort. On n'avait jamais été comparé à ça. On ne savait pas. Bon, bah, morale de l'histoire, 1986, Jacques Chirac a été nommé Premier ministre. Pas par le plaisir, mais parce que, pas le choix, il a gagné. Il a gagné les élections. Et il a vraiment gagné les élections. Pas comme le NFP en 2024, hein, il a pas gagné. Enfin bref, on y reviendra. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, François Mitterrand prend dans son bureau Jacques Chirac. Et lui dit, écoutez, monsieur Chirac, vous allez gouverner ce pays. De fait, puisque vous avez une majorité de députés qui vous soutient, qui voteront vos lois et vos budgets, donc vous allez le faire. Par contre, on va mettre ensemble des règles en place. Et c'est comme ça que François Mitterrand a inventé ce qu'on appelle les domaines réservés. Il a dit à Jacques Chirac, conformément à la lettre de la Constitution, je suis chef des armées, donc je garde la politique de défense. Et puisque c'est moi qui représente la France à l'étranger et qui négocie les traités, je garde aussi la politique étrangère. Et Chirac lui a répondu, très bien. Très bien, monsieur le Président. Pourquoi ? Parce que Chirac n'avait pas intérêt à ouvrir une crise avec le président de la République. Il n'avait pas du tout intérêt à avoir ça. Donc il a préféré trouver un deal intelligent pour que ça marche. Parce que pendant ce temps-là, il était président, il était Premier ministre. Il était Premier ministre. Donc nickel. Il a le pouvoir. Certes, il n'est pas à l'Élysée, mais il a Matignon. On prend ce qu'on a. Et donc, il a fait 1986, il a gouverné. Enfin, il a fait une politique de droite, il a fait des ordonnances de privatisation pour revenir sur les nationalisations de la gauche, etc. Enfin bref, la politique du franc et tout. Et il s'est dit, c'est pas grave, de toute façon, la prochaine étape, c'est dans 2 ans seulement, 1988, je vais plier François Mitterrand à la présidentielle. The rest is history, comme vous le savez, le reste c'est l'histoire. Possibilité d'un article 16 en cas de censure ou quoi, vu la situation ? Non. Non, non, non. L'article 16 de la Constitution, qu'on appelle l'article des pouvoirs exceptionnels, est un article qui a été mis dans la Constitution en ayant en tête des crises, des crises d'un niveau de gravité d'ordre militaire. En gros, l'article 16, le général de Gaulle, il avait en tête la débâcle de 1940. Et il avait en tête la guerre d'Algérie. Donc, l'article 16 permet au président de la République de prendre des décisions importantes dans des cas prévus par la Constitution, qui sont des cas où l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire, par exemple, sont mis en danger. Où la continuité de ses pouvoirs publics constitutionnels sont mis en danger. Par exemple... Je sais pas moi, un pays étranger à fort accent russe, je sais pas pourquoi, c'est un exemple, s'amuserait à pilonner la ville de Paris en envoyant des missiles qui ciblent très précisément les lieux de pouvoir. Là, on serait dans une situation grave, parce que on se retrouverait dans une situation où la France ne peut pas assurer la continuité de ses pouvoirs constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le ministère de l'Économie et des Finances, le Trésor, la Banque de France, l'Assemblée nationale, le Sénat et beaucoup de ministères sont en cendres et les mecs sont morts. Là, il faut pouvoir prendre des décisions. Voilà. Et l'article 16 de la Constitution prévoit que non seulement cette situation-là doit être constatée quand même, mais en plus de ça, il faut que les décisions que prenne le président de la République servent et uniquement servent à rétablir les pouvoirs constitutionnels et leur fonctionnement habituel. Ce que je veux dire, c'est que l'article 16 ne peut pas être utilisé pour réformer le Code du travail. Non. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Alors là, ça, c'est une décision. Non, 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 non. C'est pas une décision d'urgence, ça, en fait. L'urgence, là, c'est de rétablir les pouvoirs constitutionnels. Donc c'est ça l'article 16, c'est... Mettez-vous dans la tête la débâcle de 1940. La moitié du pays est sur les routes, il n'y a plus de réseau téléphonique, il n'y a plus de réseau de transport. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de service public, La situation est dramatique au sens premier. Dans l'idée, mais les textes, ils disent quoi exactement? Genre, juridiquement, qu'est-ce qui en empêche? Regarde, je vais te montrer. Ah bah tiens, je vais pas te montrer, il est là. La Constitution, aux éditions Dalloz, 4 euros, achetez-la, elle est bien faite. L'article 16. Non, ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, c'est la Charte de l'environnement. Ça, c'est la Constitution. Ça, c'est ma Constitution, ça. Ça, je reconnais. Écoutez bien, les enfants, l'article 16. Vous êtes prêts? Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Attends, c'est pas fini. Mais c'est marrant parce que dans le cas où je donnais, en fait, tu peux même pas consulter les présidents en question parce qu'ils sont morts. Donc là, je suppose que dans ce cas précis... Bon. Je suis désolé, j'ai pas pu consulter. Je l'ai appelé, mais il n'y a plus de réseau dans Paris parce que ça brûle partout. Et puis, je sais pas, il me répond pas. À mon avis, il est mort. Donc, j'ai pas pu consulter le président du Sénat. Bon, bah, donc on le fait pas, quoi. Ensuite, il en informe la nation par un message. Le président de la République doit annoncer à la nation les décisions qu'il a prises. Alors, ça peut être un message audiovisuel, puisqu'on a pris l'habitude depuis les années 60 d'avoir des messages audiovisuels du président de la République, ce qu'on appelle des allocutions et tout. Bon, si le réseau téléphonique et le réseau Internet est par terre, qu'est-ce qu'il fait le président? Il fait un message dans le journal officiel. Il prévient les rédactions des journaux, donc il essaye quand même de faire savoir au maximum aux Français que voilà la situation. Mais s'il ne peut pas, bah, il reste le journal officiel. Hein. Voilà. Donc, il peut prendre les mesures qui s'imposent. Alors j'aime bien, en plus, tu sens que l'écriture du texte, c'est très... Pardon, je fais de la légistique, hein, mais c'est très général de Gaulle. C'est très Debré, tu vois, c'est... Le président de la République prend les mesures exigées par ses circonstances. J'aime bien. Les mesures exigées par ces circonstances. Ah bon, d'accord. Lesquelles? Alors, c'est un peu plus précis après. Justement, on dit ces mesures. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. Le Parlement se réunit. Il n'a pas besoin de l'autorisation du président pour ça. D'habitude, je vous rappelle qu'une session doit être convoquée par le président. Mais là, dans ce cas-là, le Parlement se réunit. Où il veut, quand il veut. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Pas de coup d'État. Nanananana. Coup d'État, en général, vous savez, on dissout l'Assemblée. C'est le truc le plus facile. Pas de coup d'État. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Elle se réunit de plein droit. Après 30 jours des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. Donc ça, c'est le classique, hein, c'est la saisine du Conseil constitutionnel, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Donc au bout de 30 jours, on peut dire au Conseil constitutionnel, bon, vous pouvez vérifier que là, on est toujours dans une situation de crise gravissime, là. Parce qu'autant il y a 30 jours, d'accord, oui, là, les missiles et tout, c'était vénère. Mais là, 30 jours plus tard, est-ce que vous pouvez vérifier si on est toujours dans des conditions qui empêchent les pouvoirs publics constitutionnels de se rassembler, etc., etc., etc. Le Conseil constitutionnel se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, l'article 16. Donc, vous retenez, parce que vous êtes des étudiants en droit constitutionnel, je vous rappelle, je suis un ancien chargé de TD, attention, qu'il y a 4 conditions. L'une d'entre elles doit être réunie. Soit c'est les institutions de la République qui sont menacées d'une manière grave et immédiate. Soit c'est l'indépendance de la nation qui est menacée de manière grave et immédiate. Soit c'est l'intégrité du territoire national qui est menacée de manière grave ou immédiate. Soit c'est l'exécution des engagements internationaux qui est menacée de manière grave et immédiate. Donc ça, ce sont les quatre conditions. L'une d'entre elles doit être réunie. Et on peut discuter, hein. Mais ça, c'est le rôle du Conseil constitué. Auquel cas, le président de la République peut prendre des décisions. Mais attention, pour pas toutes les décisions qu'il veut, ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Et le Conseil constitutionnel vérifie ça. Donc, le président de la République, il réforme pas le Code du travail. Est-ce qu'il y a moyen de contourner totalement le pouvoir législatif pour faire passer un budget en force en cas d'urgence budgétaire ou pas du tout ? Non. Non. D'ailleurs, vous vous rappelez au moment du Covid, l'année 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année 2020, l'Assemblée nationale a adopté 4 lois de budget rectificatif. On appelle les lois de finances rectificatives, les LFR, qui sont des lois que l'on peut voter en cours d'exercice budgétaire pour modifier l'exercice budgétaire en cours. D'habitude, tu votes pour un an le budget prévisionnel pour un an. Mais si au cours de l'année, il y a des choses qui bougent, la valeur de l'euro, le déficit public, le taux de chômage, etc., tu peux faire des adaptations en cours de budget. On appelle ça une loi de finances rectificative. Et bah, de mémoire, c'était en un semestre, il y en a 4 qui ont été adoptés. Sauf que dans une situation de guerre, ça ne peut pas être respecté comme tel. Au moment de la Première Guerre mondiale, il y a eu les crédits de guerre qui ont été votés. Le 49.3 est utilisable pour les PLF et PLFR. Alors oui, mais tu poses la question à l'envers. Puisque le 49.3 n'est utilisable que pour les PLF et les PLFR, et exceptionnellement pour une seule autre loi dans le cadre de la session parlementaire. Une seule. C'est quoi les PLF et les PLFR ? Les PLF, ce sont les projets de loi de finances. Projet de loi de finances, PLF. C'est le budget. Voilà. Et PLFR, ce sont les projets de loi de finances rectificatifs, donc en cours d'examen. Ce qu'on appelle un budget rectificatif. Au Royaume-Uni, ils appellent ça un mini-budget. Nous, on appelle ça un projet de loi de finances rectificative. PLFSS aussi. Ouais, PLFSS aussi, ouais. PLFSS, ce sont les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Pareil, projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. PLFRSS. Est-ce que ça existe, les propositions de loi de finances ? Non. Non, non, le projet de loi de finances, c'est une compétence exclusive du gouvernement. Après, les députés peuvent modifier le budget s'ils le veulent. Le PLF, c'est quand on estime le bug du projet. Le PLFR, c'est quand on s'est foiré sur le chiffrage. Alors, c'est pas loin d'être faux, ce que tu dis. On a déjà vu, par le passé, des gouvernements, l'année avant l'élection, voter un budget, enfin faire voter un budget, disons, généreux. Puis, une fois que les élections sont passées, présenter un projet de loi de finances rectificatif pour dire alors en fait, les prévisions de chômage n'étaient pas très bonnes. On s'est un peu planté sur le taux de croissance. On s'est trompé de quoi ? 3 points ? 2 points et demi ? Du coup, on va devoir tourner un peu la vis au niveau de tout ce qui est argent. C'est classique. C'est comme le dernier budget. Genre, t'as été élu président de la République, et la quatrième année... Non, admettons que t'as une majorité, hein, donc t'as le pouvoir, ça fait 4 ans, etc. Les Français jugent très fort le bilan. T'arrives la quatrième année, et là, tu vas voter ton dernier budget avant la présidentielle. La La plupart du... Non, c'est pas la plupart du temps, en fait, c'est systématiquement. Hein. Systématiquement, le gouvernement présente des perspectives de croissance, disons, optimistes. Systématiquement, mais évidemment. Tu vas pas rentrer en campagne présidentielle en disant « Bah alors, en fait, tour de vis pour tout le monde. Impôts. » Ah ben, impôts. Et oui. Et baisse de budget pour les collectivités, baisse de budget pour la santé, baisse de budget pour le sport, la sécurité, évidemment. Ouais. Et au fait, oubliez pas de voter pour moi. C'est dans 4 mois. Si vous... Enfin, voilà. Hein. Merci. C'était pareil en septennat. Et bien sûr, c'était pareil. Septennat, quinquennat, peu importe. C'est donc ça l'impôt de départ, ouais, exactement. Donc vous verrez. Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Le gouvernement Guettet en est à sa 4e année. 25% d'opinion favorable. Des manifestants dans la rue et tout. Situation normale. Ça s'appelle une fin de quinquennat. Le dernier budget va être généreux. Se produit aussi avant une élection européenne. Oui, ça peut. Ça peut. Mais ça a déjà commencé. D'ailleurs, je rigole sur la gauche, mais déjà, c'est pas marrant. Mais, alors déjà, si, c'est marrant. Pourquoi je dis ça ? Non, je rigole sur la gauche, mais ça a déjà commencé, je veux dire, l'été dernier, rappelez-vous, quand ils discutaient de la nomination de Lucie Castet, Premier ministre, etc., le programme du NFP, dans les médias, les gens du NFP, ils disaient « Non, mais attendez, on va augmenter les salaires, ça va permettre de booster la consommation. » Et à tous les intervieweurs, ils leur disaient « Mais non. » Enfin, c'est... Vous nous ressortez, en fait, vous nous ressortez le keynésianisme à l'ancienne, la politique du chèque, etc. Ça a marché sous Reagan. La politique de la demande, ça a marché sous Reagan ? Non. Non, dans Reagan, non. Dans Reagan, c'est la dérégulation. Politique de l'offre maximale. Non, Reagan, il n'est pas de gauche. Hein. C'est dans l'autre sens. C'était Roosevelt, ouais, exactement. C'était plutôt sous Roosevelt. Donc législative, présidentielle, européenne, chaque élection doit favoriser un budget populiste. Donc 3 ans sur les 5 du quinquennat. Ouais. Ça s'appelle gouverner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement, quelle que soit sa couleur politique, le gouvernement est accusé de faire preuve de trop d'optimisme dans ses prévisions budgétaires. Tous les ans, c'est pareil. C'est normal. Ça fait partie du jeu. L'optimisme fiscal, mais bien sûr. Le gouvernement présente des chiffres. Et c'est pour ça qu'on en discute à l'Assemblée, d'ailleurs. C'est très important d'en discuter à l'Assemblée. On dit ce qu'on en pense. Pif, paf, pouf. Les amis, demain, c'est la sortie de Flight Simulator 2024. sans transition, le mec. Hein. Alors vraiment, tout ça est très bien organisé. Je vais quand même faire la séance des questions d'actualité au gouvernement, parce que priorité au direct. Et après... Et après, peut-être que je jouerai si j'ai une clé, tout ça, je sais pas encore. En vrai, chez App. L'Assemblée nationale n'annule pas la séance. Bah non, malheureusement, j'ai envoyé des courriers hein, pour demander à ce que exceptionnellement il n'y ait pas de séance des QAG compte tenu de la sortie de ce jeu vidéo français. Mais ils m'ont pas répondu. N'oubliez pas d'acheter mon livre, Les jeunes, c'est le présent, aux éditions Payot. Vous le trouverez chez votre librairie. Ou le point d'exclamation livre dans le chat pour vous le commander et le recevoir chez vous pour le lire au chaud. Un livre qui est vachement bien, hein. Les jeunes c'est le présent, un plaidoyer politique en faveur de la jeunesse, tout ça. Merci à toutes les personnes qui le lisent et qui me font des retours, d'ailleurs vous êtes très nombreuses et très nombreux, ça me fait super plaisir. On va regarder rapidement ma prog cette semaine. Hop. Aujourd'hui, c'était la revue d'actu à 16h. Demain, les questions au gouvernement à partir de 14h. Mercredi, Euroguesseur à partir de 19h. Euroguesseur, nouvelle émission sur la chaîne Twitch d'Arte. Ce ne sera pas sur la mienne, ce sera sur la chaîne Twitch d'Arte. Euroguesseur. Émission, on parle d'Europe. Il y aura Mama Paprika, il y aura Map Assistant, il y aura d'autres invités, vous verrez, ça va être chouette. Jeudi, il n'y a pas Backseat. Il y a un live privé qui est réservé au soutien de Backseat. On va faire un live, on l'avait déjà fait. La saison dernière, on le refait cette saison, un live qui est réservé au soutien de Backseat pour faire le point sur l'émission, pour discuter de l'émission, parler avec les gens qui réalisent l'émission, etc. Et vendredi, ça dépend, on verra. Il n'y a pas de QAG mercredi du coup, non, il n'y a pas de QAG mercredi. Spécial Euroguesseur mercredi. En France, si tu bosses pas, tu vis mieux que quelqu'un qui gagne 1 800 € par mois. Bah, puisque tu gagnes de l'argent à rien foutre, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne? C'est quand même la moindre des politesses quand on débarque comme ça en disant à tout le monde j'ai du pognon. Voilà, je sais pas. C'est quand même, excuse-moi, une question de politesse. Merci par avance pour ton abonnement grâce à... Alors je sais pas quels sont les trucs sociaux que tu touches, mais bravo à toi en tout cas de les avoir trouvés parce que t'es le seul. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream, c'était chouette, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, à tout bientôt, ciao, bye bye.